Il est très précisément 18h.
Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95 MHz, 6. À Caen, sur 106. À Chartres, sur 104.5. À Cherbourg, sur 87.8. Au Havre, sur 101.1. Au Mans, sur 98.8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, sur le bouquet satellite TPS. Et pour le monde entier, sur notre site internet, radiocourtoisie.net. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 4 avril 2007 de 18 à 21h, en différé jeudi 5, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085. Par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Amis de la résistance, bonsoir. Ouais, ben j'ai le droit d'écouter mon générique jusqu'au bout quand même, non ? J'ai pas le droit.
Je trouvais que c'est un peu long quand même.
Oh, un peu long.
On a tellement hâte de vous entendre, Serge.
Ce soir, nous renouons avec une tradition abandonnée pendant un certain temps, comme l'oubli du canon, qui est la tradition du clan de la presse. Alors, autour de cette table, Camille Gallic, directrice de Rivarol.
Bonsoir.
Jeanne Smith, directrice de Présent.
Oui, je suis là, bonsoir.
Ah oui, je vois bien que vous êtes.
J'en doute parfois.
Varane Jean-Claude, directeur de National Hebdo.
Bonsoir.
Emmanuel Ratier, directeur de Faits et Documents.
Bonsoir.
Le Goffman, secrétaire général de la rédaction du Libre Journal de la France Courtoise et autres lieux découverts à marée basse.
Toutes les fautes dans le Libre Journal.
C'est la faute à Goffman. Et puis, bien entendu, nous avons également, pour la fin de cette première heure et demie, ou le début de la deuxième heure et demie, je ne sais pas trop comment on va goupiller tout ça, François Robot et le directeur de la société SDB Mégara Finance, notre ami Jean-Pierre Rondeau, qui fait son entrée. Et que je salue bassement, Jean-Pierre, comment ça va ?
Expert financier.
Allez-vous bien au moins ?
Il ne vous dit pas bonjour, il n'a pas de micro.
Ça va bien, oui.
Rondo, notre expert financier indépendant, Robot, notre chroniqueur gastronomique, et puis un mot peut-être...
Indépendant aussi, d'ailleurs.
Voilà, pour épargner quelques coups de téléphone inutiles, un mot pour excuser notre divin marquis, De Olmeta, absent pour la deuxième fois consécutive. Il assiste à un dîner de gala à la faculté de médecine de Paris.
C'est bien fait pour lui.
Il faut bien qu'il aille en reportage de temps en temps pour avoir encore quelque chose à nous raconter.
C'est bien fait pour lui. Un dîner de la gala à la faculté de médecine, je ne veux même pas savoir ce qu'il va y avoir dans les assiettes. Jean Madiran devrait venir, peut-être, je sais pas.
On l'attendait, mais bon, il y a des embouteillages, j'imagine.
Alors, nous allons parler de l'actualité, bien entendu. Et puis, je n'ai pas cité Victoria,
mais je la
regardais parce qu'elle est un peu ébouriffée. Vous êtes venue en décapotable ?
Mais non, je suis venue à pied. Alors, enfin, pas depuis le but.
Parce que je dois dire que là, moi, je m'apprêtais à voter Le Pen, mais je suis en train de réfléchir parce que j'ai vu une scène tout à l'heure qui m'a révolté et qui montre le sort vraiment scandaleux qui est fait aux jeunes des cités. Derrière moi, j'étais en voiture, et derrière moi, il y avait des jeunes de cité, quatre jeunes des cités, en t-shirt noir. On leur avait mis des chaînes autour du cou, alors bien sûr, elles étaient en or, mais enfin, c'est quand même des chaînes, quoi, c'est assez intolérable. Et ils étaient tous entassés dans une Audi, je ne sais combien, décapotable, une voiture qui vaut 1 million de francs à peu près. Et je trouve que vraiment faire circuler ces jeunes gens par un temps comme ça, par un froid pareil, dans des décapotables, c'est honteux. La police devrait intervenir. Je sais pas ce que vous en pensez.
Vous préféreriez un panier à salade, peut-être.
Non, mais la Mercedes, c'est très bien. Vous savez ce qu'on racontait à propos de... voilà. Non, j'en dirai pas plus sur l'accident. La différence entre la Mercedes et le panier à salade. La Mercedes, non, vous voulez pas le savoir. Ben, vous avez bien raison, parce que je ne la raconterai pas. Voilà, Jean Madiran fait son entrée, je le salue. Jean, asseyez-vous, si vous voulez, puisque Jean-Pierre, qui interviendra tout à l'heure, vous laisse son siège. Alors, on va être obligé de faire de la jonglerie de micro, puisque, étant donné l'état de misère de notre pauvre radio, nous n'avons que 6 micros pour 8 ou 9 invités, ce qui est forcément nous oblige à partager. Et je vais donner la parole peut-être à Camille pour savoir ce qui a retenu son attention dans l'actualité récente, en dehors des jeunes gens qu'on force à circuler dans des décapotables à une brique.
Parce que là, j'imagine que nous en parlerons, en tout cas dans nos hebdos présents, on a déjà abondamment parlé, mais Jean-Claude dans National Hebdo et bien sûr dans Rivarol, l'affaire de la gare du Nord, qui était une chose d'ailleurs parfaitement prévisible. Tout le monde a l'air de dire, de parler de flambée de violence, mais enfin c'est plutôt cette violence est endémique. Alors de temps en temps la cuisson est un peu poussée, mais c'est ce que ça se passe à l'état récurrent pour des quantités de banlieusards qui sont obligés de changer à la gare du Nord, et pas seulement d'ailleurs à la gare du Nord. Il y a également à la gare de l'Est ou même à la gare Saint-Lazare.
Mais la gare du Nord, c'est intéressant parce que j'ai inventé un slogan qui est gare du Nord, gare au Sud.
Voilà. Mais on peut traduire pour nos lointains auditeurs de Tokyo ou de Canberra, la gare du Nord, c'est la porte du 9-3 de ce département dont le préfet nous révélait récemment.
C'est la porte du Nord. Et alors, dans la...
qu'il comptait 1 million, sur 1 million et demi d'habitants, 1 million d'Africains ou de personnes d'origine africaine.
C'est aussi la porte de l'Eurostar.
Ouais.
Et ça fait, je ne sais pas si Jeanne a vu la presse britannique, mais les tabloïds britanniques, de londoniens en tout cas, ont largement fait état des scènes qui se sont déroulées. Ça ne se passe pas seulement à Notting Hill ou à Birmingham.
Oui, ce qui est important dans cette histoire de la gare du Nord, juste au moment des élections présidentielles, c'est vraiment la confirmation de l'échec.
Approchez-vous du micro, mon cher Jean-Claude, parce qu'on vous entend très très mal, je ne sais pas pourquoi.
Bien,
ouais. Voilà.
Bon, alors je
la confirmation de l'échec.
Cet événement de la gare du Nord est quand même très important au moment des prochaines élections présidentielles. C'est vraiment la confirmation de l'échec du ministre, de l'ex-ministre de l'Intérieur, qui est Sarkozy.
Moi, j'ai une explication. C'est l'électorat de Le Pen qui s'est passé la figure au broc de noix avant d'aller semer la zone dans la gare pour pouvoir... naturellement, on entend les voix tomber, là. Jean Madiran.
Oui, eh bien, d'abord, on ne devrait plus parler de banlieue. C'est la conquête de la capitale qui commence. Car la gare du Nord est dans Paris. Et quelle sera la prochaine gare? En attendant, nous sommes donc déjà dans Paris. On aurait pu dire la banlieue. C'est pas la banlieue, la gare du Nord. Et ce deuxièmement, je crois que Camille a eu tout à fait raison de dire qu'il y a un état endémique, mais que en puissance, il est beaucoup plus, c'est beaucoup plus phénoménal que ce qui s'est produit à la gare du Nord. C'est si les hommes politiques, soit implicitement, soit sous la table, soit par crainte, n'avaient pas une sorte de contrat passé avec, disons, le monde qu'on appelle encore des banlieues, ils seraient incapables de tenir en face d'un soulèvement général. Il faut bien voir qu'à la gare du Nord, on a appelé des CRS en renfort et encore en renfort, et des gendarmes en tout cas, mais on ne peut pas appeler des renforts en gendarmes partout.
Alors, d'abord, donc, il y a ça, mais en plus, il y a le fait que c'est assez difficile de demander à des représentants de l'ordre de maintenir l'ordre quand ils ont suspendu au-dessus de la tête en permanence l'épée de Damoclès de poursuite par le MRAP, la LICRA, la Ligue des droits de l'homme, SOS Racisme, le CRAN,
et les consignes de ne pas riposter.
Voilà. On l'a bien vu d'ailleurs.
S'il y a de tels silences et de telles consignes, je pense que c'est parce que les hommes responsables et ceux qui les entourent ne se sentent incapables de faire face d'une manière normale ou d'une manière sévère au problème, disons, issu de l'immigration.
Mais de toute façon, tout est lié. Il y a une chose, moi, qui m'a toujours paru quand même un paradoxe invraisemblable auquel personne ne semble sensible, c'est que on nous dit la France est protégée par son bouclier nucléaire. Hein. La France est protégée par la doctrine de la dissuasion. Alors je voudrais qu'on m'explique comment un président de la République qui détient le feu du ciel peut envisager de vitrifier une ville et demie de 5 millions de personnes et de 5 millions de civils qui n'ont rien à voir avec éventuellement une attaque surprise contre la France, alors qu'il n'est pas capable d'envoyer, faire couper en deux, un type qui a violé 3 enfants avant de les assassiner. Et là, on est dans le même ordre d'idées. Comment voulez-vous demander à des gendarmes, à des gardes mobiles, à des CRS ou à des policiers de remettre de l'ordre? Alors, comment ils vont faire? Ils vont aller voir les gars en leur disant, écoutez, nous serions extrêmement obligés, avec tout le respect que nous vous devons, de bien vouloir cesser de balancer des pots de fleurs de 25 kilos du quatrième étage, parce que vous risqueriez de porter atteinte à l'intégrité physique de certains de nos confrères ou certains de nos collègues, ce qui nous engagerait à peut-être être obligés d'entamer des poursuites contre vous. Voilà, c'est comme ça qu'on croit qu'on va rétablir l'ordre. C'est coup de pied dans le cul que ça se rétablit l'ordre quand on en arrive à ce niveau-là. Et ce que je disais tout à l'heure au début de cette émission, c'est quand on voit 4 jeunes des banlieues, le cou et la poitrine couvertes de chaînes d'or, qui s'entassent dans une bagnole à 100 briques, il n'y a pas un flic pour leur demander où ils ont trouvé le fric pour acheter ça? C'est évidemment des trafiquants de drogue, mais c'est évident. Alors, si on voit un gars qui circule un peu vite dans Paris, ou qui s'arrête un peu tard à un feu, ou qui stationne à un endroit interdit, il y a tout de suite 3 bagnoles de police pour le verbaliser. Je vois par exemple Place France Libre, devant chez moi, sous ma fenêtre, il y a en permanence une dizaine de flics à vélo qui arrêtent toutes les bagnoles pour ceinture, pour défaut de machin, pour truc. Bon. Mais quand il passe une de ces racailles de trafiquants de drogue, de dealers, de pourrisseurs, de voyous et d'agresseurs à bord de bagnoles qu'ils peuvent évidemment pas s'offrir autrement qu'avec leur trafic, là, les flics ferment les yeux. Bon, c'est comme ça. Le résultat, c'est qu'évidemment, les gars, quand ils en ont envie, ils cassent tout à la gare du Nord avant d'aller tout casser.
Comme quand ça s'était passé dans le 7e arrondissement.
Oui, c'est ça. Oui, alors là, ça...
Voilà. Parce que ça n'est pas la première fois qu'il y a, dans Paris, on a vu des scènes d'émeutes raciales dans le 7e arrondissement, de l'Assemblée nationale.
Les bobos,
il y a tout de même fort peu de temps.
Les bobos s'étaient réveillés parce que c'était leurs enfants qui prenaient des raclées. Là.
Mais à la gare du Nord, il faut bien savoir que les forces de police, moi j'ai des confirmations, ont reçu des ordres, surtout de ne pas intervenir pour qu'il n'y ait pas de bavure. Car il y avait la quantité de police pour pouvoir intervenir. Mais ils avaient ordre de rester en retrait pour ne pas intervenir et qu'il n'y ait pas de pépins.
Jeanne Smith.
Oui, je voudrais faire trois observations. Jean Madiran a dit que c'est la gare du Nord, c'est dans Paris, mais je crois que c'est depuis les manifs anti-CPE que la banlieue a pris l'habitude de déferler dans Paris et que ça se passe à la gare Montparnasse, ça se passe sur les Champs-Élysées, c'est tous les soirs qu'on voit les dealers avec leurs vêtements blancs, il paraît que c'est ce qui les distingue, qui sont là, mais alors en permanence. Deuxième remarque, il y a la police qui est en face d'eux, mais une police qui peut avoir quelques sympathies quand même pour ces voyous. Je le dis comme ça en passant à autre chose, je parle du pays qui est le mien et qui est les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il y a quelques mois, il y a eu un incident dans une banlieue à Utrecht, petite banlieue où vivaient des gens, où vivent d'ailleurs des gens très peu fortunés dans des petites maisons construites après la guerre, et ce sont des aborigènes, si vous voulez, des Néerlandais qui habitent là sans grands moyens. Et un soir, un certain nombre de jeunes maghrébins, marocains, turcs sont sous leur fenêtre en train de faire du bruit. Un père de famille sort, sa fille qui est enceinte est menacée, et voilà qu'une fliquette arrive.
Oui, j'ai vu ça. Hein.
Et lui tire dedans. L'homme est mort, la fliquette était maghrébine, aux Pays-Bas, et il y a eu des émeutes venant de l'extérieur. Alors il y avait des maghrébins, il y avait des émeutes raciales dans tout ce quartier pendant plusieurs nuits. Comment ça s'est arrêté? Eh bien, on a bouclé le quartier, c'est-à-dire n'y entrait plus que les habitants, c'était la réserve protégée. Et puis il y a ce sentiment que ça ne pourra se résoudre que dans l'affrontement. Et ça, c'est les Pays-Bas.
Ça me paraît assez évident, oui. Je crois qu'il faudra...
À propos de ce que dit Jeanne Smith,
genre d'hypothèse.
Nos petits journaux en ont parlé. En général,
oui,
la grande presse en a parlé.
Sur la mort, c'est surtout,
non, c'est pas à ce propos, c'est surtout, on pourrait dire, le statut inférieur des Français qui s'est vérifié trois jours après les émeutes de la gare du Nord avec l'octroi de cartes de transport gratuites pour les immigrés en situation irrégulière, pour les titulaires du RMI, pour toutes ces personnes-là. Ça représente, je crois, au moins 90 millions d'euros par an. Et ça va s'appliquer à plusieurs centaines de milliers de personnes, en particulier en Seine-Saint-Denis. Alors que le FDS, le Français de souche, lui, sera obligé de continuer à payer sa carte orange. Donc ce genre d'événement qui s'est produit Gare du Nord, on l'a fait un peu ressortir un certain nombre, ce ne serait pas produit en fait trois jours après, puisque le contrôleur...
C'est ce qu'a dit Marine Le Pen.
Voilà, n'aurait plus pu le contrôler. Et cette affaire de cet octroi de la carte orange et des titres de transport à des centaines de milliers de personnes qui n'ont aucun droit de les avoir en réalité, a été soigneusement occultée par les grands médias.
Mais quand vous dites qu'ils n'ont aucun droit de les avoir, je suis désolé, mais c'est pas exact. Il y a une loi en France qui prévoit que les immigrés hors la loi, qu'on appelle les sans-papiers, ont le droit d'exiger des autorités organisatrices des transports urbains de voyageurs des réductions tarifaires d'au moins 50% dans la mesure où leurs ressources sont égales ou inférieures au plafond de la couverture maladie universelle complémentaire. Alors, ça, c'est une hypocrisie formidable, parce que, bien évidemment, un immigré clandestin, un immigré illégal, un immigré hors la loi, qu'on appelle un sans-papier, ses ressources, elles sont forcément inférieures à tout ce qu'on peut imaginer, puisqu'il ne peut pas avoir de ressources, étant donné qu'il n'est pas censé pouvoir travailler. Donc, ses ressources, c'est zéro. Et par conséquent, elles sont obligatoirement inférieures à la couverture maladie universelle. Et du coup, La loi fait obligation aux organisateurs de transport public d'assurer la gratuité des transports pour ces gens-là. Et un Français de un FDS, comme vous dites, un Français de souche, qui est quelqu'un qui est censé avoir une adresse, qui travaille, etc., ou qui est censé travailler, en tout cas qui a par héritage la propriété d'une partie du patrimoine national, eh ben lui, il peut pas arguer de ce genre de situation de détresse financière, et par conséquent, il est obligé de payer.
Mais il c'est peut pas payer jusqu'à 180 euros par mois sur son SMIC. Voilà.
Et c'est pas la seule chose. Là, on publie dans le Libre Journal le recensement, et il est certainement pas complet, des avantages que la loi prévoit pour les hors-la-loi. C'est absolument renversant. Il y a la gratuité, naturellement, la gratuité totale des services de santé. Je suis allé consulter récemment à l'hôpital. J'ai la carte vitale, et pour une affection qui est prise en charge à 100%. Je viens de recevoir une facture de l'hôpital, bon, c'est dérisoire, mais c'est 25 euros à payer immédiatement pour une affection qui est protégée à 100%, enfin qui est remboursée à 100%. Et on me précise bien que ces 25 euros ne seront pas remboursés parce que ça fait partie de, du truc qu'on paye en plus, etc. Bon. Mais si je m'étais présenté en disant, bon, pas parle français bien, bon, moi, passer par là, besoin soigné beaucoup, malade et tout, et ben, je partais sans payer. Comment vous appelez-vous? Laszlo Zolt. Bon, très bien, monsieur. Où est-ce habitez-vous? Ah, je n'ai pas d'adresse, j'habite à Bolois, le canal Saint-Martin, au bord de l'eau. Voilà. Et puis c'était fini, j'avais rien à payer. Ben, maintenant, je ferai ça. J'irai voir, docteur, beaucoup malade ventre. Personne payé pour moi, malade, triste.
Vous aurez peut-être un médecin qui parlera comme vous à ce moment-là.
Oui. Peut-être payer billet pour retourner au pays. Quel pays, monsieur? Ah, j'oublie, bon, beaucoup malade tête. Voilà.
Je m'indigne de ce racisme anti-magyar, mais enfin,
ah, le...
Non, mais Serge. Oui, mais vous avez dit Zoltan.
Non, Laszlo Zolt.
Laszlo Zoltan.
C'est ambigu, Laszlo.
Bon, la loi est de quelle date?
La gratuité des transports en Île-de-France.
Non, la loi dont parle Serge.
Elle est ancienne déjà, hein, c'est pas nouveau du tout. Ça.
Non, mais c'est une accumulation.
C'est un recensement de textes de loi.
Oui, donc, puisque vous dites qu'elle est ancienne, elle a dû être prise sous les socialistes.
Oh, c'est possible. Oui,
donc, à quoi a servi l'élection de 2002?
À rien, bien sûr.
Sinon, voilà.
C'est pour ça que je dis certainement...
Ça a aggravé, en tout cas, puisqu'aucune de ces lois absolument scélérates n'a été abrogée pendant le passage de la droite, entre guillemets, au pouvoir.
Mais, bon, ça va, il y a bien d'autres choses. L'endroit, donc, au dispositif de santé, l'IVG gratuite, sans condition de séjour ou de durée de résidence, ils ont le droit de se marier, de se paxer, de se déclarer en concubinage, sans preuve de la régularité du séjour. Les enfants nés en France ou à l'étranger, dans le mariage ou en mariage, ont droit à l'aide sociale à l'enfance, sans condition de régularité de séjour ni de résidence. La consultation est gratuite dans les centres PMI et ouverte à tous. Enfin, à tous, sauf bien sûr...
Et dans les centres PMU aussi.
Dans les centres PMU aussi. L'accès aux crèches n'est pas conditionné par la régularité du séjour. Alors qu'on manque de crèches, tout le monde nous dit ça à longueur de journée, il paraît qu'on manque de crèches.
Nous ne pouvons, dans le Libre Journal, nous ne pouvons qu'esquisser ce catalogue de lois de privilèges des étrangers clandestins, rappelons-le, parce que nous n'avons qu'une page. Nous remplissons une page avec cette esquisse, à laquelle il faut quand même ajouter, Serge, que, et là on va voir qu'il n'y a absolument pas de limite, que le contribuable paye la drogue des immigrés clandestins. Comment est-ce qu'on l'a appris? Comment est-ce qu'on l'a découvert? Le 31 mars, la loi socialiste du grand honnête homme Jean-Paul Auchon, qui pour une fois n'était pas devant le tribunal pour prise illégale d'intérêt, prend effet. Et tous les médias répètent derrière les socialistes, transport gratuit pour les RMistes. Seulement moi, entre-temps, Martial Bild, qui est au conseil régional, m'explique qu'il aurait voté cette loi, si elle était bien telle, s'il s'agissait bien des RMistes. Et il me dit, nous avons voté contre, parce que tous les médias parlent des RMistes, mais en fait, il s'agit de donner les transports gratuits aux clandestins. Le soir même, donc cette loi prend effet, le 31 mars.
C'est pas une loi.
Cet arrêté du conseil
Monsieur
régional.
Monsieur Chon n'a pas encore la possibilité.
Ça prend effet le 31 mars au matin. Le 31 mars au soir, j'allume la radio et la patronne de la brigade des stupéfiants me détaille un trafic de 20 000 boîtes de Subutex, qui est un substitut à l'héroïne, une drogue très dure, mais qui est une drogue elle-même puisqu'on trafique sur ce Subutex, et elle explique que la drogue était donnée gratuitement, 20 000 boîtes de drogue de Subutex données gratuitement aux trafiquants qui produisaient des cartes de CMU, qui produisaient des diplômes d'immigrés clandestins et auxquels des pharmaciens et des médecins complaisants donnaient donc des ordonnances.
Noms, des noms.
20 000 boîtes de Subutex, valeur 1 million d'euros, c'était revendu en Finlande, en Europe de l'Est. Donc, est-ce que j'abuse des mots, Serge Debeckage, dites-le moi, vous qui êtes plus calme que moi, en disant que le contribuable paye la drogue des Africains immigrés clandestins s'ils ont la malchance d'être drogués, ce qui est bien triste pour eux.
Oui, c'est bien pénible.
J'abuse des mots?
Oui, je pense d'ailleurs. Mais s'ils sont drogués, c'est parce qu'ils sont malheureux. Ils ont besoin, ces gens-là aussi, de... Comprenez, ils arrivent en France, on leur dit en France, c'est l'argent les murs. Mais quand ils arrivent en France, ils se mettent devant un mur et ils ne sortent pas d'argent. Ils sont obligés d'aller dans des bureaux de la sécurité, enfin, de l'assistance publique et d'attendre des fois une heure ou deux avant qu'on leur donne de l'argent. Donc moi, c'est normal qu'ils aillent à la drogue, ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez ? Moralement, c'est insupportable.
Un dernier mot. On parlait tout à l'heure de police complaisante. Mais les braves gens achètent, par exemple, le Parisien libéré. Ça marche bien pour eux, d'ailleurs. Hein, plus de 500 000 exemplaires, maintenant. Et lit des titres comme ça sur cinq colonnes. Sanctions aggravées pour les agresseurs des institutrices. Vous vous souvenez, à Chalon-sur-Marne, elles avaient osé dire à un petit arabe de 10 ans, viens te mettre en rang. Dépêche-toi de te mettre en rang, ou un petit, un élève de CM2, et elle s'était fait massacrer, piétiner le visage à coups de talon par terre. Et là, on nous explique que les agresseurs ont pris 10 mois et 4 mois ferme. Seulement le même jour, on nous explique aussi que 30 à 40% des peines de prison ferme ne sont pas appliquées. Et si on lit l'article du Parisien libéré jusqu'au bout, on voit que un des deux agresseurs, en tout cas, est sorti libre de cette condamnation aggravée à 10 mois de prison ferme et que ça lui a fourni l'occasion de prendre dans la gueule le poing du petit copain d'une des institutrices.
Ah, c'est une bonne nouvelle, ça.
Oui, mais voilà, ça veut dire que quand on n'applique pas, quand il n'y a plus de justice, les gens font leur justice eux-mêmes.
Commentaire ? Non ?
Je crois que personne n'a fait attention que cette émeute de la gare du Nord s'est passée au moment même où était proposé à l'ONU le plan du médiateur pour l'indépendance du Kosovo. Et
quel lien ? On voit bien le lien.
Excusez-moi, Serge.
Kosovo aujourd'hui.
Pour moi, il est évident.
Demain, la Seine-Saint-Denis.
Exactement, et c'est le dessin de Char, c'est exactement. Et c'est l'édito, la France-Kosovo en sursis. Nous sommes, moi je suis allée la première fois où je suis allée au Kosovo, on disait à l'époque le Kosovo Metohija, c'était en 1965. Les deux populations serbes et albanaises et albanophones s'équilibraient à peu près. Et puis avec la situation catastrophique de l'Albanie voisine, l'immigration n'a cessé de déferler sur le Kosovo et petit à petit les gens ne pouvant plus supporter la coexistence avec ces musulmans qui étaient beaucoup plus primitifs qu'eux, qui avaient une natalité de à peu près 6 enfants par femme, tandis que les Serbes avaient déjà ce qu'ils appelaient la peste blanche, donc une démographie très basse. Finalement, on cédait la place. Mais ce white flight, c'est ce que les Anglais et les Américains d'abord ont appelé white flight, c'est exactement ce qui se passe dans des quartiers, des quantités de localités et de quartiers français où les aborigènes, comme dit Jeanne, cèdent la place devant les occupants.
Oui, je voudrais faire une remarque à ce sujet. Benoît XVI, Dieu sait que je n'ai pas envie de le solliciter ce qu'il a dit à ce propos, mais il a quand même dit explicitement que l'Europe semblait vouloir prendre congé de l'histoire. Et ça, ce sont des mots extrêmement forts de la part d'un homme aussi doux et aussi mesuré que lui.
Mais il y a un article qui est paru dans la presse américaine qui a été écrit par un colonel en retraite qui s'appelle Peters, dans lequel il dit l'avenir de l'Europe, il s'inscrit entre deux possibilités. Ou l'Europe va être islamisée, ou les Européens, qui ont des réserves insoupçonnées de cruauté puisées dans leur passé, va se révolter et va, alors c'est texto ce que je dis, envoyer les Maghrébins et les islamistes dans les chambres à gaz. Bon, alors, c'est comique. C'est comique parce que, évidemment, je ne dirais pas pourquoi c'est comique, parce que je crois que tout le monde a compris. Mais ça montre très bien que la mentalité dominante aujourd'hui consiste à dire, si vous vous opposez à l'immigration et à l'invasion de votre pays, vous êtes des nazis. Forcément, quand vous dites qu'il y a trop d'immigrés, ça veut dire que votre projet, c'est quand même de les gazer. Et il termine son article, d'ailleurs, ce brave colonel, qui n'est pas la moitié d'un con, je dois dire, en disant, Et d'ailleurs, un jour, les troupes américaines qui se trouvent à bord des navires à proximité de Dunkerque, de Toulon, de Marseille et en Italie de Bari, débarqueront, non pas pour protéger l'Europe de l'invasion, mais pour protéger les musulmans de la sauvagerie des Européens.
Comme au Kosovo, où elles l'ont déjà
fait. Voilà, on revient au...
Et pour les mal comprenants, le général Wesley Clark, qui était à l'époque le chef de l'OTAN, a donné les explications dans les termes suivants. Il n'y a plus de place en Europe, a-t-il dit, puisque c'est bien sûr au patron de l'OTAN d'expliquer pour qui il y a de la place et pour qui il n'y en a pas en Europe. Il n'y a plus de place en Europe pour les nations qui refuseraient d'être métissées. Le programme est clair.
Je voudrais ajouter, je viens de lire le bouquin de Jacques Attali, Brève nouvelle de l'avenir. C'est tout à fait passionnant, parce que c'est l'avenir tel qu'il le conçoit, avec la démocratie participative. Enfin, c'est tout à fait intéressant. Et lui, il fait cette même analyse. N'ont une viabilité que les seules nations prêtes à accepter énormément d'immigrés. Et à propos de l'islam, il dit, de toute façon, ça c'est une religion qui est en mesure d'évoluer, c'est une religion intelligente, qui d'ailleurs a apporté la culture judéo-grecque en Europe, et finalement les seuls résistants à cet ordre merveilleux, ce seront les chrétiens passéistes et en gros les intégristes. C'est assez rigolo à lire, je dois dire.
Alors pour les sceptiques, je signale que le papier sur l'article de Peters et également un article de Paul Bélien dans le Washington Times est présenté dans le Libre Journal, il y a les extraits. Alors, il n'y a pas que ça.
Numéro 404.
Ce qui est très curieux, c'est que Peters dit ça. Il y a une autre journaliste, enfin une autre essayiste, qui tient le même genre de propos. Et quand on fait des recherches, on s'aperçoit qu'en 80, le directeur du London Muslim Institute, Kalim Siddiqui, promettait sans rire des chambres à gaz hitlériennes pour les musulmans. 9 ans plus tard, Shabir Akbar entonnait la même chanson dans son livre « Be careful with Mohammed », « Touche pas à Mohammed » en quelque sorte. La prochaine fois qu'il y aura des chambres à gaz en Europe, il n'y aura aucun doute sur l'identité de ceux qu'on y mettra. En 91, l'auteur de « Bouddha of Suburbia », le Bouddha des banlieues, Hanif Koreishi, voyait plus loin et plus grand encore, « Les Blancs tournés contre les Noirs et les Asiatiques tenteront de nous faire passer dans les chambres à gaz ». Donc c'est pas nouveau ce truc-là, ça fait 25 ans que ça traîne, cette idée que l'Europe, si elle se révolte contre l'immigration afro-maghrébine, sera à l'identique des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale et avant la Deuxième Guerre mondiale.
Donc tout sera bon contre
eux. Donc contre eux, tout est bon. Hein, à vive Dresde, Hiroshima et autres lieux. On voit très très bien la façon dont les esprits sont formatés aujourd'hui pour que, et d'ailleurs on voit le résultat, c'est que... quoi que Le Pen dise sur l'immigration, ou quoi qu'il ne dise pas, c'est mal. De toute façon, c'est mal. Et quand Sarkozy ose faire allusion à l'existence d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, qu'on pourrait appeler d'ailleurs le ministère de l'oxymore, eh bien, on entend Madame Ségolène Royal dire « c'est ignoble ». C'est pas ignoble, c'est con. C'est-à-dire que un ministère de l'identité nationale et de l'immigration, c'est faire un ministère de la grippe et du vaccin. Je sais pas, il y a pas de mots.
Elle prétend aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais dit. Non, je l'ai entendu de mes propres oreilles à la radio.
Non.
C'est pas ça. Elle l'a dit. Elle a dit, c'est ignoble de dire ça. Et Sarkozy a dit, elle m'a traité d'ignoble, ce qui prouverait qu'elle a quand même des éclairs de lucidité. Et elle dit, non, pas du tout. J'ai pas traité d'ignoble. J'ai dit que ses propos étaient ignobles.
Ah,
pas la même chose.
Mais quelqu'un qui tient des propos ignobles n'est-il pas ignoble? Cela revient au même.
Oui, on peut dire ça, mais Sarkozy n'est pas ignoble, puisqu'il s'appelle Denagi Bosca. Donc il est bel et bien noble. De noblesse. De grande noblesse. Voilà. Noblesse électorale, on dira. Hein. Voilà. Donc, qui a un autre sujet à évoquer ?
Bon, un petit peu d'humour. Nous avons eu en main les factures de Ségolène Royal.
Ah, ça c'est très drôle. Hein.
Ségolène Royal, alors je vais vous en donner une de ces factures. Le vendredi 28 juillet, de cette année sur l'île de l'Héron.
Non, la dernière.
Ça, c'est pas... oui, ça, pardon. Je pense que tout le monde avait compris. C'est l'île de l'Héron. Une facture de 603 euros pour une nuit au Novotel avec Thalassa, deux chambres avec vue sur mer, petit déjeuner et repas payé par le conseil régional Poitou-Charentes. Attention, on a la pièce là. Et il y en a beaucoup plus, on a eu
mais
tout un dossier là-dessus.
Mais il me semble qu'il y a plus grave encore, avec notamment une subvention pour José Bové.
Absolument.
Donc, on peut penser que Madame Royal a acheté l'appui de José Bové au second tour, en tout cas.
Comment vous pouvez soupçonner une chose pareille?
J'ai l'esprit très soupçonneux, excusez-moi
là,
Serge.
J'en suis pas convaincu, hein.
Non.
Parce que quand on examine, j'ai regardé l'intégralité des listes des maires ayant signé, en tout et pour tout, il y a deux maires socialistes qui ont signé pour José Bové. Il y a vraiment eu une consigne qui a été donnée, par François Hollande pour qu'il ait passé voix, quoi.
Oui, mais donc, alors, je suis pas sûr expliquer cette munificence de Madame Royal pour José Bové?
Mais je pense que cette subvention,
politiquement,
date de l'année dernière,
c'est encore plus grave.
Non, mais elle date de l'année dernière, ça n'a aucun rapport. Il n'était pas question encore qu'il se présente, donc...
Certains vous diront que Bové pensait se présenter depuis déjà 4 ou 5 ans.
Mais il va faire quoi, Bové? Il va faire... au fait, non, c'est pas ça que je voulais vous demander. Puisque vous avez des lumières sur les maires qui ont donné leur signature, vous êtes le seul, apparemment, enfin, je parle sous contrôle de nos confrères, vous êtes le seul à avoir le courage d'éplucher les listes de maires.
L'UMP a donné des voix à Besancenot. Voilà.
Ah, et
L'UMP s'est passé par Brice Hortefeux. Il les a trouvés dans les très petites communes.
Ah voilà, ça confirme.
Voilà, il les a trouvés dans les très petites communes. Il n'y a pratiquement aucune signature venant de maire encarté à l'UMP ou de conseiller généraux UMP. Il y en a 3 ou 4, donc c'est vraiment des individualités. Le plus souvent, c'est des maires sans étiquette.
Ça voudrait dire que... c'est intéressant parce que ça voudrait dire que Sarkozy n'a strictement aucune influence, puisqu'il a dit il faut signer pour Le Pen.
Oui, mais ils n'ont pas... Enfin, d'après... Bon, il y avait à peu près 500 signatures. J'ai quand même pas eu le temps de tout regarder, parce qu'il y en avait 500 signatures par candidat. Il en a dû en avoir 530, on a dit Jean-Marie Le Pen. Donc, les 500, c'est fiable. Il n'y a pratiquement aucune signature d'élu encarté à l'UMP.
Ce qui était important, c'est qu'il est...
Il y a des maires qui se représentent pas l'année
un nombre
prochaine.
De signatures qui représentent, une fois retirées les signatures apportées par Maigret... 500. Ça, c'était important.
Oui, c'est possible, mais...
Non, mais
bon, je sais pas ce que je...
Hein, je Bruno... sais pas, Baran, je parle...
Maigret a amené exactement 11 signatures.
Ah. C'est énorme, de sa part.
Je croyais que c'était 54, moi.
Donc, il y avait eu des promesses au départ.
Ah oui.
Mais la réalité, Bruno Maigret a amené 11 signatures.
Bon, c'était pas la peine de se fâcher, alors. Enfin... Ce que j'en dis, c'est histoire de causer. D'autres.
Mais je sais pas, je pense qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui aimeraient quand même qu'on leur parle de l'élection présidentielle.
Mais nous approchons.
Parce que je pense que. Enfin, pour moi, la Gare du Nord, c'est quand même un épiphénomène par rapport à ce qui va se produire dans 15 jours.
Ouais, bah alors...
Moi, je crois qu'il y a une chose importante dans cette élection. On a parlé de Ségolène tout à l'heure. Celle qui a le plus de soucis à se faire, c'est elle. Parce que si on additionne les voix de l'extrême gauche, qui sont 5 ou 6 candidats, ça va faire du 18 ou 20%. Donc, si tu ajoutes... Moi, je pense que Besancenot va faire au moins 5, hein, si c'est pas plus. Et que, bon, les autres, Arlette va faire ses 5, 4, 5, ça en fait déjà 10. Bon, il y aura des voix de Bérou qui vont passer contre Ségolène. Et moi, je crois que Ségolène, c'est vraiment, doit se faire du souci pour être au deuxième tour.
Pourquoi tu dis ça avec un air triste? Mais alors, j'ai l'impression que toute la tristesse du monde se passe sur son beau visage.
Enfin, ce qui serait bien, c'est que tout le monde donne son avis, mais moi, je pense pas du tout que l'extrême gauche va faire 18%, y compris Voynet. C'est une élection qui, à la différence de 2002, où il y avait un certain nombre de candidats susceptibles de réunir un certain nombre de voix sur eux, on l'a vu, l'échec de Lionel Jospin, c'est l'éclatement des votes à gauche. Mais là, on se rend compte que Voynet est laminé à cause de Nicolas Hulot, même si Nicolas Hulot s'est présenté. Voynet est parti pour faire un très mauvais score. Chivardi, n'en parlons pas. On va le dire, parti des travailleurs. Arlette Laguillamon.
Candidat des maires.
Oui.
Un candidat des pères, alors qui c'est?
Je pense que Arlette Laguier va absolument pas faire 5% des voix, elle va faire beaucoup moins. J'aimerais que tout le monde donne son avis, mais également Marie-Georges Buffet va faire un score catastrophique. Donc pour moi, tous ces gens-là vont pas dépasser 12%. Hein.
Elle a quand même fait 12 000 personnes au palais à Bercy.
Oui, mais c'est parce que tous ces électeurs sont venus.
Non, c'est pas ces électeurs, c'est tous les employés municipaux qu'ils ont encore avec leur famille.
Tous les quarts venant de province, de la banlieue.
Je précise, ils ont un total de 13 000 élus. Alors, on peut en réunir 12 000 à Bercy.
Ouais. Bon, moi, je maintiens ce que je dis, c'est que l'extrême-gauche va avoisiner les 18%, et si c'est pas plus.
Alors, c'est mon point de vue. Je note. Alors, Varane, 18%. Pas pour toi.
Enfin, tu inclus dedans Voynet et Buffet.
Tous.
La gauche de la gauche, bref.
Oui, oui, oui.
Et vous, la gauche, Emmanuel?
12, pas plus.
Alors, 12, voilà. Alors, je continue. Camille, vous avez un pronostic?
Pas non plus. Je ne pense pas du tout que l'extrême-gauche arrive à son étiage de 2002. Je pense qu'elle sera en recul.
C'est-à-dire, vous avez un chiffre, non? Vous avancez un chiffre, vous osez? Vous misez?
Moins de 15, en tout cas. Moins de 15. Oui, enfin, comme Emmanuel, entre 10 et 15...
Les 5 candidats d'extrême-gauche, hein?
Oui.
Jean Madurand, vous avez deux chances avec présent.
Moi, je n'ai pas d'idée particulière sur le total de l'extrême gauche. Ce qui me frappe, c'est que, avec un score manifestement très bas et une audience à peu près complètement perdue dans l'opinion, le Parti communiste demeure un parti actif parce qu'il a ses élus, vous le disiez tout à l'heure, ses employés municipaux qui sont naturellement mobilisables, ses cadres, et il aura peut-être il fera peut-être pas 5%, mais il est un parti qui fonctionne, qui tourne, qui existe. Et quand il était au pouvoir, chez Tito, chez Staline, c'est avec 5%, entre 5 et 10% de la population qu'il a gouverné.
Oui.
De toute manière.
Je crois que là, ils sont quand même très très
mal. De toute manière, si vous voulez, ces pourcentages me paraissent assez dérisoires de parler de ces pourcentages quand on met en rapport ce que donnent les sondages à la vraie gauche. Et l'influence incroyable qui est la sienne dans l'opinion, dans les médias et au sommet de l'État, dans parmi les hauts fonctionnaires et les ministres qui sont tétanisés à l'idée de prendre des mesures qui pourraient ne pas avoir l'aval de journaux qui sont aussi confidentiels que Politis ou...
On voit bien que la plupart des décisions qui sont annoncées dans les programmes, de la droite, de chez Sarkozy, sont des décisions qui sont inspirées par des positions, des propositions de l'extrême-gauche. C'est évident.
Mélanger au vocabulaire de la supposée lepénisation des esprits.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Oui, je voudrais qu'on m'explique quand même. Moi, je ne m'hasarderai certainement pas au jeu des pourcentages. Je n'en sais rien. Je ne comprends déjà pas comment on peut voter Ségolène, puisque elle est nulle sur scène, mais nulle. On est gêné pour elle quand on voit ses prestations. Ça, c'est une chose.
C'est parce qu'il y a un effet de vide.
Tenté quand même. S'il n'y avait pas Le Pen, c'est pour ça que je me disais que ce serait bien si Le Pen n'avait pas ses signatures, parce qu'au moins on pourrait voter Ségolène. Alors maintenant, c'est impossible, mais c'est quand même assez tentant de voter dans le sens du chaos. Surtout quand le chaos a un côté Elsa Popine ou Marx Brothers.
C'est extraordinaire, mais elle est désavouée au fond par son parti. Elle est désavouée par Libération, qui est beaucoup plus méchant pour elle que Le Figaro. Enfin, je trouve cette élection fascinante de ce point de vue.
Elle est même désavouée par Le Monde, hein.
C'est incroyable.
Qui fait discrètement, enfin on peut le voir, une campagne pour Sarkozy. Hein, exactement comme ils avaient fait campagne en 95 pour Balladur.
Quand elle a d'abord un nom, ce qui n'est pas possible. C'est Royal, comprenez les gens. Il y a un vieux fond républicain, terroriste chez les Français. Ils vont avoir du mal à mettre un bulletin Royal. D'autre part, physiquement, c'est l'impression qu'elle est échappée du couvent des oiseaux.
La salle d'opération.
Oui, bien sûr, en passant par la salle d'opération, bien évidemment. Mais non, pas dans ce sens que tu supposes, Jean-Claude. On parle de chirurgie esthétique, on parle pas d'autre chose. Voilà. C'est pas chez là, quoi. Si c'est ça que tu penses. Mais et puis d'autre part, elle est quand même parfaitement idiote. Il faut bien reconnaître.
Non, pour une femme, je dirais même, et peut-être Jeanne éprouve-t-elle le même sentiment, c'est même assez humiliant.
Pour une fois qu'une femme arrive à un statut normal, je vois vraiment pas pourquoi les femmes seraient pas.
Non, mais elle est très inférieure, par exemple, enfin, à Guigou et même à Voynet ce matin, j'entendais Marie-Georges Buffet, qui me paraît un phénix à côté de
Royal. Oui, mais je suis pas du tout de votre avis.
Non, mais
je crois qu'il y a tout le problème de le Parti socialiste avec Ségolène Royal. Bon, joue énormément sur l'image, sur l'inconscient collectif, etc. Elle joue sur des mythes. Je crois que le discours est surtout repris par les médias, mais n'a aucune importance. Mais si vous voulez, il y a une espèce d'adhésion. Ce qu'on voit depuis toujours, hein, avec elle dans les sorties de meeting, c'est les gens n'ont pas retenu ce qu'elle a dit, mais ils l'ont trouvé formidable.
Oui.
Parce que oui, et je pense que si vous voulez, bon,
elle ne sait pas ce qu'elle dit, les gens ne comprennent pas ce qu'elle dit, mais à quoi elle va être présidente de la République.
Ça vaut mieux parce qu'elle se contredit plusieurs fois par jour.
Oui, mais
tous les candidats se contredisent.
Est-ce que vous croyez qu'avec ce candidat, ça va être très mobilisateur pour la gauche?
La gauche a gagné toutes les élections depuis 2002, hein, quand même.
Dans un
23 régions sur 24.
Mais dans un climat français d'abstention.
Et de division de la droite.
Oui. Non, mais si vous voulez, on en a déjà un peu parlé entre nous. Quand on prend la France, en gros, c'est 50% à droite, 50% à gauche depuis la Révolution française. Et de temps en temps, il y a un invariant de l'ordre de 5%, mettons 10%.
Et puis il y a la division d'un camp quand l'autre est moins divisé.
Voilà, bon. Oui. Mais la gauche peut, à mon avis, peut difficilement être en dessous de 45%, et en tout cas de 40%, ça paraît impossible qu'elle fasse moins. Donc si on accorde 15%, mettons, à l'extrême gauche, la gauche et les écologistes, ça lui donne encore 30% ou 25%. Elle aura pas le score de... À mon avis, elle peut pas faire le score de Jospin, parce qu'il y avait un certain nombre de candidats relativement crédibles.
Mais je crois que c'est Le Pen qui a dit, de toute façon, puis il n'est pas le seul, les quatre candidats présentés comme les candidats principaux, alors Sarko, Ségo, Bérou et Le Pen, représentent 80% des suffrages. Il reste 20% pour le reste. Et la seule chose réellement intéressante, c'est de savoir ce qui va jouer sur ces 80%. 80% divisé par 4, ça fait 20. Autrement dit, entre le candidat qui va faire 21% et le candidat qui va faire 20,5%, c'est toute la différence qui va faire qu'on soit présent au deuxième tour ou pas. Et c'est pour ça que moi, je continue à penser que Le Pen a très très forte chance, non seulement d'être au deuxième tour, mais d'être en tête au premier tour. Parce que c'est le seul qui a un électorat qui est bétonné. Quelles que soient les motivations que peut avoir cet électorat, que ce soit de l'enthousiasme, de la résignation, de la colère, ce qu'on veut. Mais les autres, il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, un électeur qui est disposé à voter Sarkozy, il peut basculer chez Bayrou demain, ou il peut basculer chez Ségolène. Moi, si j'avais, si j'étais sur le point de voter pour Ségolène...
Ou chez Le Pen,
oui. Mais il n'y a pas beaucoup d'électeurs de Le Pen, je crois, qui vont dire, ah oh ben non, finalement, je vote pour Le Pen, je vais voter Bayrou, ou Ségo, ou Sarko. Parce que de toute façon, si j'ose dire, Le Pen, c'est mieux. C'est, au moins, c'est plus clair. C'est plus clair que Sarkozy, parce qu'on sait que c'est la vraie droite. C'est plus clair que le Bayrou, parce qu'on sait qu'il est quelle est sa position à l'égard de l'Europe et quelle est sa position en général à l'égard des problèmes qui se posent aux Français. Mais où, on ne sait pas, c'est n'importe quoi. Quand on voit ce type qui dit le lundi il faut supprimer l'ENA et le mardi il faut remplacer l'ENA par une école supérieure réservée pour former des administrateurs d'élite, on dit,
bon, d'accord, oui, non ça. Mais Serge, le pire avec Bayrou demandant la suppression de l'ENA, c'est que je sache, il a été pendant 4 ans ministre de l'Éducation nationale. Oui, oui. Alors comment n'avait-il pas eu, de 1993 à 1998, comment n'avait-il pas eu cette idée de génie?
Parce qu'à l'époque, il s'occupait de la fleur de Renoir. C'était quand même plus important que,
oui,
voilà, que tout ça. Il fallait virer un type qui avait osé parler des petites maghrébines arrogantes et mal élevées.
Donc, mais juste une question, si on supprime l'ENA, on supprime par le fait même les énarques existants?
Je ne souhaite pas, parce que comme vous ne l'ignorez pas, ma chère Jeanne, nous avons ici, dans cette radio, la chance d'avoir en notre tête un énarque qui compense en étant polytechnicien. Mais on a déjà eu assez d'emmerdements à trouver un successeur à Ferré. Si maintenant il faut le buter pour complaire à Bayrou, ça va devenir délicat.
Je crois que dans le vote, il y a encore une grande partie d'électeurs qui n'osent pas encore dire qu'ils voteront Le Pen. Et nous pouvons très bien avoir là une très grande surprise. Et je te rejoins, Serge, comme quoi Le Pen peut être en tête au premier tour.
Je pense que c'est tout à fait vraisemblable.
Non, au second.
À l'issue non. du premier tour.
Ah bon?
Donc en tête pour, oui. Au premier, bien sûr, au deuxième, mais oui, il faut dire au deuxième, il ne faut plus dire au second, parce qu'ils sont capables de nous en coller un troisième, si le résultat ne marche pas. Si on en croit au moins l'auteur du roman de politique fiction, comment s'appelle-t-il?
Pendant que vous cherchez, je rappelle à ceux qui en ignoreraient qu'ils écoutent Radio Courtoisie. Ouais. Le CSA va nous taper sur les doigts, là, on a laissé passer trois quarts d'heure. Et que le
CSA, site... il a d'autres préoccupations en ce moment, vous taper sur les doigts.
Et que l'adresse du site a changé, hein, c'est radiocourtoisie.net maintenant pour nous écouter dans le monde entier.
Oui, comment s'appelle vous savez forcément, ce journaliste de Libé ou de je ne sais où, qui a fait un bouquin, qui a les 100 premiers jours de Le Pen, ou pas les 100 premiers jours, mais là...
C'est Guy Konopnicki.
Ah, il y a Guy Konopnicki qui a fait...
Voilà, c'est ça. C'est à ça que je faisais
rire. Et ça s'appelle Élu. Et Konopnicki, pardon, chef de vous contredire, est à Marianne. Après avoir présidé l'UNEF stalinienne sous les doux sobriquets de Novotniki et de Salopniki. Je vous prie de m'excuser.
C'est l'ancien trotskiste qui vient de régler un vieux compte. Là. Bon, alors donc, je constate quand même que les seuls qui ont eu le courage d'annoncer des pronostics, c'est Jean-Claude Varane, Emmanuel Ratier et Camille Gaye.
Oui, mais c'est très présent, difficile. Là, compte tenu, il y a un...
Si, on a dit à peine en tête. C'est quand même
près de 2 millions de nouveaux électeurs. Comment voteront-ils? Ça, c'est quand même la grande inconnue
D'abord, peut-être comme les autres, et d'autre part, c'est... comment on disait, il y avait un slogan il y a quelques années qui disait votez pour, votez contre, mais votez dans le trou. C'était ça. Mais... voilà, c'est ça.
Autrement, vous ça va, Sarkozy est peut-être élu au premier tour.
Non, ce qu'il faut dire. Attendez, il y a un truc.
Pourquoi je vous entends là.
Non, c'est strict. Attendez, c'est strictement impossible que Nicolas Sarkozy.
Absolument pas possible.
C'est très bien, c'est très simple. Soit élu au premier tour ou. Bon, moi, je suis pas tout à fait de l'avis de Serge à l'instant de Bessy, ou qu'il arrive en tout cas, il y aura plus de mal d'arriver en tête au premier tour que d'autres candidats qui sont sur l'échiquier. Tout simplement parce qu'il faut, quand on discute comme ça, il faut prendre le camembert, le fameux camembert, et puis mettre des pourcentages. Et on se rend compte que, le camembert n'est pas extensible. Et, à droite, vous avez quand même trois candidats qui sont sérieux. Mais qui peuvent pas dépasser un certain score, puisque ça s'est jamais produit avant en France.
Quel est celui qui est pas sérieux à droite?
Non, je dis que le quatrième sérieux, c'est Ségolène Royac. Enfin, qui donne
excusez-moi.
Donc, avec eux, il ne faut pas raisonner sur 80%. Parce que vous avez quand même, il y a Philippe de Villiers, il y a Frédéric Nius, qu'on peut considérer comme un candidat de droite, c'est les chasseurs, pêcheurs, nature, tradition, mais qui ramasse un peu à gauche. Mais le quand vous avez trois candidats, pas dans un mouchoir, mais enfin qui sont quand même très proches, vous divisez, mais vous divisez en gros sur 50. Donc moi je dirais même pas que c'est à 20% que la décision se fait, c'est à 18. Hein. Il faut pas dire, par exemple, c'est délirant de dire que Nicolas Sarkozy va faire 31%, parce que qu'est-ce qui reste aux autres? Ce qu'on voyait encore il y a peu de temps dans certains sondages. Bon, où les gens disaient sans rire, en gros, 28% pour Nicolas Sarkozy, 24% pour François Bayrou, 12% pour Le Pen, mais on était déjà au-delà de tout ce qui pourrait se produire. Donc,
Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit risque, hélas, qu'un certain électorat qui veut absolument empêcher la gauche de passer ne vote pour Sarko plutôt que de voter pour Le Pen? Je l'ai entendu dire et je l'entends dire autour de moi.
Oui, on entend ça. Mais bien sûr, on entend ça. Mais je crois pas que ça soit. Je crois pas, en tout cas, que la situation à l'heure actuelle aille dans ce sens, puisque ça c'est aussi un effet pervers des sondages et des commentaires. Oui. C'est que comme tout le monde dit, Ségou est dans les choux, alors il n'y a pas de danger. Le gars qui voulait voter éventuellement Sarkozy pour dire faut pas prendre de risques, faut pas gâcher une voix en risquant de la perdre en votant Le Pen au profit de Ségou qui se trouvera à ce moment-là, la question se pose même plus, puisque Ségou elle est dans les choux, donc on peut voter tranquillement Le Pen.
Il y a trois semaines, la rumeur c'était il faut voter Bayrou pour empêcher Sarkozy d'être au premier, au second tour. Enfin bon.
En tout cas, moi, je reviens sur une de mes idées à propos des sondages, c'est que c'est quand même extraordinaire. Les sondages politiques, on en a la preuve maintenant depuis 20 ans, 25 ans, sont faux. Hein. Ils correspondent pas à la réalité, notamment en ce qui concerne Le Pen. Or, les instituts de sondage sont des entreprises commerciales qui vivent en vendant leurs sondages.
800 millions par an, le marché.
Alors, il faut que les gars fassent comprendre à leurs clients que quand ils vendent des sondages politiques, c'est faux. Et c'est normal, mais quand ils vendent des sondages commerciaux, par exemple, est-ce qu'il vaut mieux un dentifrice bleu marine ou un dentifrice vert qui va engager la politique d'une entreprise pour les 10 années à venir? Eh bien là, c'est vrai, ils se trompent pas. Et moi, je ne sais pas comment ils peuvent faire ça, comment ils peuvent maintenir qu'ils sont sérieux, alors qu'à l'évidence, on a la preuve par les résultats des sondages politiques qui fabriquent tout à la main et que ça n'a absolument aucun sens.
Mais là, il y a d'énormes intérêts pour maintenir dans les médias la renommée des sondages. L'impôt sur les sondages, elle est d'abord, ça fait des années qu'on le répète, elle est d'abord dans le fait qu'il donne des chiffres.
Oui, alors qu'il va donner
des chiffres. Et un chiffre au lieu d'une fourchette. Et quand il pousse le culot jusqu'à donner des décimales, mais pourquoi font-ils ça? C'est parce qu'il s'agit pour eux de maintenir la passion autour des sondages, de maintenir la vente, de maintenir le chiffre d'affaires. Parce que s'ils donnaient des fourchettes, ça serait beaucoup moins passionnant, parce qu'on verrait que finalement, ils sont tous plus ou moins. Mais ils l'avouent, pourtant, parce qu'ils parlent comme ça des corrections. Des corrections qu'ils apportent pour tenir compte. Pourquoi se permettent-ils d'apporter des corrections aux chiffres bruts qu'ils ont? Parce qu'ils savent, tous les premiers, que le chiffre brut est une approximation. Et qu'il devrait donner une fourchette de 2 ou 3 points ou peut-être davantage. Mais à ce moment-là, imaginons qu'on ait des fourchettes de 3 points pour les 4 candidats principaux, ça n'intéresserait plus personne. Tandis que là, quand on voit, lui, il a un demi-point d'avance, il a 0,5 d'avance cette fois-ci. Mais alors, on a beau dire, du moment que les médias parlent sérieusement des chiffres, et que les gens oublient, parce que ce que le chiffre brut a, il a quelque chose de définitif. C'est scientifique. Il est à temps.
Madame Laurence Parisot, en 2002, dont l'Institut de sondage donnait Jean-Marie Le Pen juste avant les élections en dessous de 10%.
Oui, et ne ferait pas
voilà. Donc et on a vu ce que ça a donné. Mais ce qu'il y a, c'est que il faut le dire. Bon, ce que vous appelez, c'est le coefficient de redressement, mais il est catastrophique pour le Front National. Bon, parce qu'à la différence que vous disiez, Serge, c'est que dire si vous préférez un cirage blanc ou un cirage bleu, vous n'avez pas l'impression de trahir vos pensées intimes. Alors que si on vous téléphone, puisque les sondages se font
parce
par téléphone.
Bleu et blanc, mais si vous dites, est-ce que vous préférez un cirage noir, un cirage blanc, les gars, là,
on peut supposer que les gens n'ont aucun intérêt à dissimuler ça. Alors que, dans tous les sondages réels en France, le sondage brut donne Jean-Marie Le Pen à tous les sondages entre 3 et 4%. Pas compliqué, il y a trois entre, quand vous interrogez 100 Français, il y en a 3 ou 4 qui indiquent qui votent pour Jean-Marie Le Pen. Bon, or, depuis 84, le Front National fait en général plus de 10% sauf une élection. Donc, à partir de ce moment-là, les sondeurs se sont rendus compte que ça n'avait strictement aucun rapport, les sondages qu'ils pratiquaient, avec les trucs. Donc, ils ont un coefficient de redressement. Mais le problème, c'est ce que vous disiez, Jean-Marie Durand, c'est que ça n'a aucun sens de donner des décimales, puisqu'ils multiplient par 3 ou par 4. Mais pourquoi pas 3,6 ou 6? Ça n'a aucune importance. Donc, les résultats, c'est à l'aveuglette complète.
C'est l'Institut Pifométrique.
On pourrait dire que ces deux derniers mois, c'était assez fun, assez people de dire je vote Sarkozy.
Ouais. On pourrait résumer ça d'une formule.
Les deux d'ailleurs, c'était.
On pourrait résumer ça de la formule suivante. Les sondeurs se foutent du monde, comme nous l'avons mis en titre à la une du Libre Journal numéro 403, mais le monde le leur rend bien.
Mais Serge de Beckett, vous avez dit, vous vous étonnez devant le fait qu'on commande encore ces sondages et qu'on les utilise encore, mais je crois que ce marché de 800 millions d'euros, ça coûte cher, eh bien, il rapporte. Parce que le simple fait de mettre en une d'un journal des chiffres aussi nets et aussi précis que Sarko 51, Sego 49, eh bien, ça fait vendre le journal. Oui, c'est le seul but, je pense.
Mais je suis tout à fait d'accord. Seulement, le problème là, que vous soulevez, c'est que les journaux, en général, ne payent pas les sondages. Puisque les sondages sont utilisés... Pardon, sont payés généralement par les candidats, diffusés gratuitement auprès des journaux, ou diffusés directement par les instituts de sondage auprès des journaux pour assurer leur propre promotion. Quand vous voyez sondage machin, sondage je sais pas quelle marque de sondage, etc. Donc ils sont présents tout le temps. Mais ce que je veux dire, je reviens à ça, parce que c'est quand même là, j'ai jamais eu de réponse à cette question qui me paraît grave, c'est que si je dois lancer une nouvelle couleur pour une voiture, par exemple, je vais dire à mon... ou un nom pour les voitures, puisque c'est à la mode. Alors, est-ce qu'il faut appeler la voiture une Valda, ou une Valdo, ou une Valdi? Alors, ils font des sondages, ils ont des panels, comme ils disent, et ils vous disent, monsieur, si vous appelez une Valdi, vous allez vous ramasser. Si vous appelez une Voldo, ça va pas marcher. Appelez ça la Valda. Voilà. Donc, alors, le gars sort une voiture qui s'appelle Valda. Bon. Et c'est fondé sur le travail des sondeurs. Et le gars, il a eu pendant des mois, pendant la campagne électorale précédente, la preuve que l'Institut de sondage qui lui donne des conseils pour vendre sa voiture à 100 millions d'exemplaires plutôt qu'à 100 000, bidonne complètement et se viande à chaque fois quand il parle des résultats des élections.
Ce ne sont pas du tout les mêmes sondages. Ce ne sont pas des sondages faits au téléphone,
Il n'y a pas de vérification pour des gens, comme c'est la plupart des cas, pour des gens sans mémoire, il n'y a pas de vérification. Le seul cas où il y aurait une vérification, c'est lorsqu'il s'agit des sondages pour une élection. Mais la seule chose qu'on retient, et qu'ils nous ont répété pour se mettre à l'abri, c'est que c'est pas les résultats du vote qu'ils donneront. C'est une situation approximative, pas approximative, une situation transitoire aujourd'hui. Et ils ajoutent qu'ils constatent qu'il y a un pourcentage énorme de gens qui changeront d'avis au dernier moment. On entend même dire la plupart des gens se déterminent dans les deux derniers jours et même certains dans l'isoloir. Pourquoi ils racontent ça? Qu'est-ce qu'ils en savent d'abord?
Ils disent ça
parce que c'est pour annuler l'idée de rectification.
Pour compléter le tableau, il faut rappeler que la France est de très loin record de, comment dire, woman du... C'est-à-dire que la France détient le record des budgets de sondage, mais la France détient le record aussi de la consommation des neuroleptiques, et la France détient également le record de consultation des voyantes. Et là, il y a une jointure, parce que les voyantes sont consultées. Serge, j'essaye de répondre à vos questions, là, directement. Les voyantes sont consultées sur les élections. Alors, si elles faisaient ça au dé, elles auraient une chance sur deux. Or, à chaque fois qu'on regarde, qu'on examine les résultats des prédictions des voyantes sur les élections présidentielles et autres, on s'aperçoit qu'elles se trompent à 100%. Et pourtant, elles continuent, le budget des voyances et assimilées est supérieur à celui de toutes les religions réunies dans notre pays. Voilà une réponse, je pense, à votre question, Serge. Les Français ne croient pas aux sondages, ils ne croient pas aux voyantes, mais ils leur donnent quand même de l'argent, parce que c'est comme avec une femme, quoi. C'est tellement bon d'entendre des bêtises, même si on n'y croit pas.
Il y a une chose importante quand même. Les dernières fois, il y avait une date de limite pour les sondages. Cette date limite, cette fois-ci, a été levée. C'est-à-dire que pratiquement jusqu'au dernier moment, peut y avoir des sondages. Je trouve ça inadmissible, car avant, je crois 15 jours avant, ou 10 jours avant, ou 8 jours avant, il n'y avait plus aucun sondage qui devait paraître.
Oui, mais il y avait des sondages,
on ne pouvait pas
les publier. Les gens ont le câble. Quand tu as BBC, CNN...
toute la presse francophone en Suisse, en Belgique.
Bon, toute la presse francophone, mais je parle à la radio, à la télévision en tout cas, et par Internet, t'as accès à tout. Donc c'était un peu ridicule de faire semblant de maintenir. C'était à l'usage des RMistes, quoi. Alors il y avait que les RMistes qui n'avaient pas le droit de savoir que...
Oui, mais Jean-Claude Varane de National Hebdo met le doigt sur un point qu'on n'a pas abordé encore, c'est qu'ils ne sont pas seulement irrationnels et consolateurs, etc., ces sondages, et rapportant de l'argent. Ils sont aussi un instrument, c'est-à-dire que c'est pas par hasard qu'on donne 10% ou 11% à Le Pen une semaine avant qu'il ne fasse
16%. Jamais personne n'a pu établir de façon scientifique, ça c'est... pardon d'utiliser ce mot obscène, l'effet d'un sondage. D'ailleurs, si on dit, on ne sait pas, quand on dit Le Pen est à 10%, si ça va mobiliser l'électorat de Le Pen en disant, bah, disons, il faut peut-être qu'on s'ajoute, qu'on fasse au moins 15%, ou si au contraire, ça va avoir pour effet que les gens vont dire, bah, pour 10%, c'est pas la peine de se casser, on reste chez nous. Personne ne peut le dire. Ça n'a jamais, jamais, jamais été établi. C'est la question qu'on pose tout le temps aux sondeurs, qui disent, on ne sait pas.
On ne sait pas, mais on peut facilement imaginer qu'en tout cas, ça a un effet démobilisateur qu'un sondage qui baisse. Un sondage qui monte, on ne sait pas si ça mobilise davantage les partisans ou les adversaires, mais un sondage qui baisse, il baisse beaucoup...
Dans le cas de Le Pen, c'est quand même difficile de le faire baisser quand vous le faites.
Mais par exemple, je ne voudrais pas être supporter de Philippe de Villiers, ne serait-ce que par ces sondages qui sont, je crois, très démobilisateurs. Non ?
Je crois que le vote de Villiers, c'est une espèce de vote... ça appartient à cette habitude française qui est d'applaudir le loser. Ouais, c'est ça.
Oui, mais regardez. Il est pas très fort. Il n'applaudit pas très fort dans ce cas-là, alors.
Moins fort que les Anglais, parce que les Anglais ont ça aussi. Vous avez remarqué que les Anglais donnent à leur place et à leur garde des noms de défaite.
Oui, en effet, on le dit.
Serge, j'ai un auditeur qui voudrait jouer au pronostic.
Ah ben ouais.
Alors, à droite, Le Pen 19, Sarkozy 18, Bayrou 15, Villiers 4, Nius 2, ce qui fait 58. À gauche, Royal 18, Buffet 6, Besancenot 5, Laguiller 5, Voynet 4, Chivardy 2, Beauvais 2, ce qui fait 42. Voilà.
Ça tombe juste en plus.
Ah bah tiens, je vais vérifier l'addition.
Je pense que c'est plausible, mais je pense qu'il surestime totalement l'extrême gauche. Aucun candidat du Parti des Travailleurs, depuis qu'il se présente, n'a jamais fait plus de 0,7%.
Si c'est bon, je l'embauche, le gars.
Et il faut se souvenir quand même que
le
score du Parti communiste, bon, aux dernières élections, c'est impossible que Marie-Georges Buffet va 6% maintenant.
Puisque c'était 3,37% pour le camarade.
Alors, puisque je suis dans les auditeurs, je continue. Et on vous dit, parlez-nous un peu de Sarkozy l'Américain et de ses amitiés particulières. Je lis pas bien, là, après.
Ah oui, c'est un mot qui...
C'est jeune. Nous avons compris.
Jeune.
Les néocons.
Ah non, les néocons.
Néocons, soyez polis.
Néocons. Néoconservateurs. C'est ça que ça veut dire.
Ben, Richard Perle, l'un des principaux néoconservateurs américains, qui a d'ailleurs dû quitter ses fonctions parce qu'il était impliqué dans un scandale pour des livraisons d'armement à la Chine populaire, mais ça lui a été très vite pardonné. qu'on a dit lors d'un voyage à Paris il y a 5 mois à peu près, qu'il considérait que Nicolas Sarkozy comme une très grande chance pour la France.
Mais pourquoi ils ne prennent pas les États-Unis, moi je...
C'est formidable, un immigré qui serait une chance pour la France, alors.
Ouais.
Non, mais je crois, on va peut-être pas en parler longtemps au micro, parce que je crois que ça a déjà été abordé. À peu près dans tous nos journaux, on a tous fait des articles sur les néoconservateurs à la suite de Strauss, avec toute une série de personnages qui entourent le président américain actuel. Il est certain qu'il y a des liens étroits, d'ailleurs. Nicolas Sarkozy, quand il est très lié à un certain nombre de fondations américaines néoconservatrices, et lui-même avait fait des discours qui sont assez connus quand il était à New York, à Washington, en disant « je me sens étranger dans mon propre pays, je voudrais être américain, etc. » Bon, et son principal conseiller pour la défense, qui est Pierre Lelouch, est extrêmement lié aux fondations néoconservatrices américaines, et pourrait être, si Sarkozy est élu, soit le ministre de la Défense, soit le président du Conseil national de sécurité qui doit être créé par Sarkozy. Il est évident que pour les États-Unis.
D'ailleurs, un truc typique voilà.
Il est évident que Nicolas Sarkozy est le candidat des États-Unis. Si ce mot-là a un sens, bon, il faut se souvenir quand même qu'il a été reçu à plusieurs reprises par George Bush. George Bush, je crois que c'est l'année dernière, avait même accepté qu'on fasse une photo lui, juché soit sur la pointe des pieds, soit sur un petit escabeau pour qu'il soit à la taille du président américain. Et ils ont toujours été extrêmement... C'est au moins 6 ou 7 ans que... Pour les États-Unis, le bon candidat en France, c'est Nicolas Sarkozy. C'est ni Jean-Marie Le Pen, ni François Bayrou, ni Nicolas.
Il faut relever tout de même que Sarkozy a changé de langage depuis des semaines et des semaines, ce qui me donne moi beaucoup de baume au cœur et beaucoup d'espoir, parce que ça signifie que les études, les enquêtes qu'on a faites pour lui, lui ont montré que ce langage déplaisait beaucoup en France et qu'il reste donc un fond patriotique, donc anti-américain, du moins contre l'administration américaine, très solide en France.
Serge, alors un auditeur, la France se trouve d'ores et déjà dans une situation où il ne sera pas possible, dont il ne sera pas possible de sortir, où il ne sera pas possible de rétablir l'ordre sans l'emploi de la force. Qu'en pensez-vous ? L'emploi de la force, je relis, j'ai mal lu. La France se trouve d'ores et déjà dans une situation où il ne sera pas possible de rétablir l'ordre sans l'emploi de la force. Alors, que pensez-vous de l'emploi de la force?
Mais je crois que c'est pas une spécialité française. L'ordre ne s'est rétabli que par la force.
Voilà, c'est pas très nouveau, ouais.
Ça a toujours été comme ça. Si, encore une fois, si on va voir les délinquants en leur disant, vous savez, c'est pas très chic ce que vous faites.
Ça s'appelle l'admonestation, Serge.
Vous avez encore brûlé 45 voitures cette nuit, franchement. Franchement, je t'en
Serge,
assure.
Vous croyez faire de l'humour, Serge, mais ça s'appelle l'admonestation tous les tribunaux qui appliquent leur peine de prison ferme à 60%, pas plus.
Oh, franchement, je trouve que tu fais fort, là.
Non, mais de toute manière, on ne peut pas... Il me semble qu'il est difficile de parler de force quand on ne... n'a pas la volonté de cette force, mais que surtout, on ne dispose pas de cette force. On n'en est plus au moment de la bataille d'Alger, parce qu'il faudrait faire non pas une bataille d'Alger, mais il faudrait en faire 75. Et d'autre part, je rappelle que maintenant, dans les parachutistes, il y a 20-30% d'halogènes. Donc
finalement, la seule qui a proposé d'envoyer l'armée, c'est Hugo. Quand elle a dit il faut confier les jeunes des banlieues, elle n'a pas dit exactement ça, mais enfin les jeunes délinquants, il faut les confier à des militaires, c'est ça quoi. C'est...
Là encore, elle arrive après la bataille, parce qu'il y a des officiers de la Royale qui nous disent qu'on a vidé les escaliers des banlieues sur le pont du Charles de Gaulle.
Exactement. Ce qui se passe à bord du Charles de Gaulle est absolument hallucinant, avec les marins refusant d'obéir, de se lever, refusant le vendredi de remplir leurs devoirs, se mutinant parce qu'il y a pas, on a servi par hasard du jambon, etc. Donc, je dis, c'est le Charles de Gaulle, d'après ceux qui ont servi, d'après un rapport officiel qui a paru dans Le Point, c'est absolument... Enfin, c'est
la garderie.
C'est Nasser, c'est pas Nasser, parce que Nasser était laïque.
C'est la garderie, enfin... et la garderie est un boxon, on est obligé de le dire.
On est bien parti. D'autres là, moi je suis épouvanté.
Vous ne saviez pas ça?
Non, je ne savais
mais
pas.
Mais il faut lire nos journaux.
Moi je croyais qu'ils étaient le petit doigt sur la couture du pantalon. Alors, si, je croyais qu'on les avait.
Le petit doigt dans la poche du pantalon du voisin.
Il faut l'abonner au Libre Journal.
Oh, c'est affreux ça. Bon, alors continuons. Depuis que les journalistes radio et télé épluchent le curriculum des candidats à l'élection présidentielle, soit depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, on ne les a jamais entendus leur poser la question « Avez-vous fait votre service militaire ?» S'agit-il d'un hasard, d'un oubli ou d'une gêne? Qu'en est-il au juste pour chacun des candidats? Allez, M. Ratier, c'est vous qui êtes...
Sarkozy n'a pas dû faire, parce qu'il n'a pas trouvé d'uniforme à sa taille, je pense.
Il l'a fait au service. Non, le lecteur nous avait posé la question et j'ai fait toutes les recherches pour le trouver. Bon, il l'a fait en 76 ou 77, je ne me souviens plus. Mais enfin, au service plus ou moins de documentation et de recherche des armées.
On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait la guerre, parce que.
Voilà. Mais il n'a pas eu une conduite héroïque, mais c'était pas une époque où il y avait beaucoup de gens ont eu une conduite.
Moi j'ai vu en tout cas sur le net qu'il avait été blessé gravement au front quand il a reçu une tarte à la crème.
Ouais, et d'après moi, François Bayrou n'a pas fait son service national parce que il avait repris la ferme de ses parents à la suite du décès de son père.
Oui.
Au moment où il passait l'agrégation, il était sursitaire, et je crois que c'est pas soutien de famille, mais c'est quelque chose comme ça, et je crois qu'il en a été dispensé. Voilà. Donc Ségolène Royal, c'est réglé.
Elle aurait pu être à Fat.
Ben, surtout, elle a grandi sous la coupe d'un cruel colonel OAS.
Donc elle a fait son service militaire.
Elle l'a fait pendant 20 ans en famille.
Beauvais. Non, Beauvais, je crois pas, je sais pas.
Beauvais explique ce cri très fort sur toutes les radios qu'il était objecteur de conscience.
Ah oui,
c'est... C'est-à-dire que c'est Larzac, en fait, son histoire.
Ah, voilà. Il s'est battu, c'est l'ancien combattant du Larzac.
C'est à ce moment-là qu'il rejoint le Larzac et les communautés.
Le maquis du Larzac.
Voilà.
J'espère que pour c'est une auditrice qui vous dit, j'espère que pour vous remonter le moral, vous avez écouté Bruno Gollnisch à 13h sur Radio Monte-Carlo. Il a été remarquable, excellent. Et les journalistes à la fin étaient beaucoup moins agressifs qu'au début.
Ah oui,
et Gollnisch est maintenant capitaine de frégate.
Ah, il a été formidable. C'est-à-dire qu'il les a promenés, mais c'était un véritable bonheur de l'entendre. Quand il pose la question, qu'elle dit, quelle langue parlez-vous? Parle, l'anglais, bien sûr, le portugais, l'allemand, un petit peu, le japonais, bien sûr. J'ai encore quelques bonnes bases de malais,
Tagalog.
Ah oui, c'était formidable. Non, il est vraiment bon, hein. Ouais.
Alors, la nouvelle de la publication des bancs Royal Hollande n'était qu'un poisson d'avril publié dans l'excellent salon belge. Nous aurons donc une concubine royale pour candidate.
Il y a eu un autre gars qui était un poisson d'avril qui était très rigolo, mais qui a tourné vraiment. Alors, le poisson, ça tourne assez facilement, mais celui-là, il est tourné assez vite et commençait à sentir un peu mauvais. C'est l'annonce que le dernier enfant de Marine Le Pen s'appelait, c'est la fille de Marine Le Pen s'appelait Samia.
En hommage à Samia Gamal.
Et alors, bon, c'était naturellement faux, il n'y a pas plus de Samia que de beurre en broche, mais ça a provoqué une flambée d'interrogations. Que veut dire Samia? Comment Samia pousse un peu quand même, etc. Donc,
et surtout, on a annoncé sa naissance en septembre 2006, alors qu'il n'y a pas eu de naissance en septembre 2006, c'était assez amusant.
On est presque
tout ça entre l'ardée de considération sur la moralité publique, etc. Et personne n'a remarqué que c'était le 1er avril, tout simplement.
Mais vous avez vu que l'Elysée est à vendre.
Oui, mais c'est pas d'aujourd'hui.
Non, pour le prix de la dette, on y trouve des tas de choses.
On peut pas dire que c'est très
nouveau. Secret, enfin, voilà.
Le problème, c'est pas de trouver quelqu'un pour vendre l'Elysée. Chirac l'a fait depuis longtemps, c'est de trouver quelqu'un pour l'acheter, c'est ça.
Un auditeur soupçonneux nous dit Il est de plus en plus clair que M. Ratier appelle à voter pour Mme Royal.
Voilà, bah c'est ce que je veux
dire. Politique du pire, ah, consternante.
Ratier, attention Ratier, vous êtes repéré. L'agent ségoléniste dans la presse nationale, la presse patriote.
Ah oui, je trouve ça consternant.
Non, le consternant est carrément trop là.
On peut quand même faire une analyse politique qui soit quand même un peu différente de ce qu'on espère. Voilà. Mais moi, je donne rendez-vous à cet auditeur dans 15 jours. On verra si Ségolène Royal fait moins de 20%. Ça me paraît difficile. Voilà. Mais je peux parfaitement me tromper.
Alors, je vous ai proposé.
Et j'appelle pas à voter pour. J'invite pas à voter pour Ségolène Royal. Je voterai pas pour elle.
Dernier message de cette main-là. Je souhaiterais que vous preniez en compte l'échéance parlementaire qui arrive, c'est-à-dire les législatives. Ne pourriez-vous les évoquer ?
Bon, je voudrais répondre là-dessus parce que, naturellement, au Front National, nous en parlons et nous préparons les législatives. Mais le point le plus important, ce sont les présidentielles. Et ensuite, nous parlerons des législatives. Il y aura le nombre de candidats nécessaires. Il y a une commission qui se réunit pour nommer les candidats. Mais l'ordre du jour, c'est d'abord les présidentielles.
Alors, à propos des législatives, je voudrais quand même faire une remarque, c'est que il a circulé. Alors, c'est une remarque sur le la façon dont fonctionnent les journalistes. J'entendais tout à l'heure sur France Info une allusion à un message, une information qui a circulé sur Internet, information selon laquelle Jean-Louis Debré aurait fait voter par l'Assemblée une disposition qui prévoyait que les députés sortis, c'est-à-dire non réélus, toucheraient une indemnité de chômage ou continueraient à toucher leurs indemnités parlementaires pendant 60 mois. Et le type qui donnait cette information concluait en disant « c'est une rumeur qui a été reprise par Bayrou ce matin, etc. » Ce qui veut dire que ce type, qui est un jeune journaliste de France Info, c'est quand même censé être l'outil principal d'information des Français, hein, parce qu'on l'allume à n'importe quelle heure, on entend, n'a pas fait ce que moi, vieux ringard de la presse, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'Assemblée nationale et j'ai posé la question. Et on m'a dit, mais monsieur, c'est vrai, c'est absolument vrai, seulement... C'est totalement faux, parce que cette décision a été prise en 2003, non pas par un vote de l'Assemblée, mais par une décision du bureau politique, c'est-à-dire c'est une décision réglementaire, qui a été prise en 2003, et si on la sort maintenant, c'est évidemment pour des raisons électorales un peu idiotes d'ailleurs, et le fait est qu'en 2003, on a décidé que les députés non réélus, aurait droit à une...
Et non fonctionnaire.
C'est-à-dire ça concerne à peu près 20% de la Chambre, hein, pas plus. Ils sont fonctionnaires à 80%. Alors, donc,
car il y a un prélèvement au départ sur...
On peut en parler, parce que le prélèvement, il est de 0,5%. Et moi, je veux bien payer pour 0,5% de cotisation pour le chômage. Malheureusement, pas ce que paye le citoyen.
Dans cette affaire, si on peut, pour simplifier, c'est effectivement une mesure qui date de 2003. Moi, je l'ai publiée au moins un mois dans mon bulletin avec les détails. C'est que la décision est plus favorable que le régime précédent.
Absolument. Oui.
Mais ce qu'il y a, c'est que ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est vrai que ça s'étale pendant une législature, en fait, pendant 5 ans, mais que le système est dégressif tous les 6 mois. Absolument. Donc il tombe de 10%. C'est un peu comme les chômeurs en fin de droit qui continuent à toucher un RLICA.
Sauf qu'un chômeur en fin de droit, le chômeur citoyen, les fins de droit n'interviennent pas 60 mois après. Hein,
Et globalement, c'est pas très différent de ce qu'il y avait avant. Ils ont essayé, c'est surtout pour les gens du privé, effectivement, qui sont quand même relativement peu nombreux, qui ne retrouveraient pas de travail après. Or, on sait quand même qu'en général, que les députés, ils ont au moins ensuite une profession qui est ouverte, c'est celle de lobbyiste. Ouais. Parce qu'ils ont un carnet d'adresses qui sera utile pour les
entreprises. Tous les pots de vin qu'ils ont mis de côté pendant une législature, ils peuvent quand même survivre pendant quelques mois. Ils vendront une de leurs maisons. Ou...
Beaucoup de métallos, mais quand vous pensez que Marcel Paul qui était vraiment enfin permanent de la politique et ancien ministre, était classé ouvrier électricien jusqu'à sa mort.
Ça n'aurait pas voulu pour refaire mon installation.
Et puis, il faut dire qu'en plus, alors, 95% à peu près des députés ont également une autre fonction élective. Ouais. Donc, en général, ils retombent toujours sur... Voilà. C'est une spécialité française, ils retombent sur leur pattes.
Mais à propos de Marcel Paul... Est-ce que vous avez tous entendu, bien entendu, l'information selon laquelle la Cour des comptes s'est emparée de l'affaire du CCH, du comité d'entreprise de l'EDF, qui est financé par 1% du chiffre d'affaires de l'EDF, pas des bénéfices, du chiffre d'affaires, tel que 1% du chiffre d'affaires sert à financer les activités...
De chaque facture,
sert à financer les activités du comité d'entreprise de l'EDF. Ça fait, je me souviens, il y a pratiquement 30 ans, on avait déjà traité le sujet, on le traitait régulièrement, en traitant ces gens-là de voleurs, car c'est le
écoutez,
Parti communiste
Serge,
volé la quasi-totalité...
Serge, il y a quelques jours, je cherchais quelque chose dans la collection de Rivarol, et j'avais vu un article de Robert Lagre en 1972.
Donc, c'est pas,
ça fait exactement 35 ans que cette... Et il me semble qu'on en avait... que c'était déjà connu.
Oui. Enfin, alors, ça veut dire quand même...
Donc, ça fait 35 ans que ce scandale énorme qui a portant sur des milliards.
On peut dire des centaines de milliards. Ça a financé l'activité communiste, c'est-à-dire l'activité criminelle et subversive du Parti communiste depuis un demi-siècle, avec le fric des gens qui utilisent l'électricité, ça fait quand même pas mal de fric. Électricité qui avait été volée, puisque les entreprises privées qui fabriquaient l'électricité ont été nationalisées. Et il a fallu un demi-siècle pour que la Cour des comptes se décide à lever le doigt en disant « Non, on pourrait peut-être arrêter un petit peu les conneries. Là, le pillage, ça commence à bien faire. C'est quand même énorme. »
Mais vous en faites pas, la Cour des comptes, ça ira pas plus loin, cette affaire. En fait, c'est un instrument de négociation avec la CGT pour qu'elle s'oppose pas à une privatisation plus importante d'EDF. Tous les cadres d'EDF vous le diront.
Serge, je voudrais passer un message rapide. Dimanche 15 avril... 15h30, Palais des Sports, Porte de Versailles, grand discours de Jean-Marie Le Pen. Nice, le 19 avril. Et une bonne nouvelle, Jean-Marie Le Pen sera le dernier candidat le vendredi soir. Il y a eu un tirage au sort et c'est lui qui parlera le dernier. Et puis naturellement, ne pas oublier que le 1er mai sera très important, car le discours du 1er mai sera très important. Voilà les messages que je voulais faire passer, et merci de me les avoir laissés passer.
Pour en finir avec les propos défaitistes de mon camarade Goffman, un auditeur nous dit « Dans ma boule de cristal et les entrailles de mes poulets, le deuxième tour, Le Pen-Bérou. » Et une auditrice nous dit « Net pressentiment est en certains cas voyance, Le Pen serait élu. » Voilà. Enfin, sondage sérieux.
Bon. Je suis étonnée, nous dit cette auditrice, que vous n'évoquiez pas les machines électroniques à voter qui enterreront à coup sûr la démocratie.
Il y a un article dans Rivarol cette semaine, vote électronique, attention, danger. Il y a une page entière sur ces procédés dont on peut craindre le pire.
Vendredi dans les kiosques, alors.
Merci, Patrick.
Oui, Rivarol, vendredi. Tiens, il y a un joli papier sur mon livre. Merci, Camille, j'ai vu ça, j'ai eu droit à la lecture. Anticipé. Il nous reste 3 minutes. Si vous voulez chacun vous présenter et faire les propositions commerciales habituelles pour que de nombreux auditeurs s'abonnent à vos journaux respectifs et respectables. Oh combien. Jeanne, Le Quotidien.
Le Quotidien présent est toujours à vendre, lui aussi, comme le disait, mais pas dans les mêmes conditions.
Oh, le regard de Jean, vous auriez vu ça.
Non, ce que je voulais vous dire, c'est que le site internet de présent est complètement rénové, il marche mieux, il est plus agréable, il est plus fonctionnel. Ça vous permet d'avoir présent à peu près à moitié prix chez vous tous les jours, la veille du jour où il paraît, ce qui est quand même extraordinaire. C'est sur www.présent.fr et vous pouvez nous appeler au 01 42 97 51 30. Merci Serge.
Camille ?
Donc pour Rivarol, qui sera en effet en vente dans les kiosques vendredi comme tous les vendredis. Et pour avoir un spécimen, on peut aussi bien de Rivarol que de notre revue Écrit de Paris, on peut téléphoner au 01 53 34 97 97 ou aller sur notre site rivarol.com et après on clique, on suit et on demande un spécimen par internet.
Jean-Claude Varane qui va se faire engueuler parce qu'il a passé Sarkozy à la une de National Hebdo.
Oui, mais si vous regardez la caricature, vous verrez que c'est un Sarkozy qui a l'air de se poser des problèmes. Du reste, pour le voir, vous pouvez très bien l'acheter demain, demain jeudi, dans les kiosques, et je vous appelle à l'acheter, et naturellement à vous abonner à National Hebdo, 01 41 12 04 14. N'oubliez pas le 15 au Palais des Sports à Paris.
Emmanuel Ratier fait ses documents.
Oui, le journal qui vote pour ceux qui roulent pour Ségolène Royal, ce qui fera quand même rire tous mes abonnés et lecteurs. Donc, feuille document BP 254, 75 424, Paris CEDEC 09. Donc, en ce moment, je fais une offre promotionnelle à 61 € pour un an. Il y a 22 numéros au lieu de 76 €. Et sinon, on peut me contacter sur Internet. Il suffit de taper feuille document, on tombe sur mon site et on m'écrit.
Merci, merci à tous d'être venus. Ne quittez pas, nous préparons la deuxième moitié de cette émission.
De passer la soirée avec nous sur Radio Courtoisie. Je vous rappelle notre rendez-vous de 21h30 tout à l'heure, le Libre Journal de la Nuit en direct, dirigé par Paul-Marie Couteau. Tout de suite, la seconde partie du Libre Journal de Serge de Beketch, également en direct. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 4 avril 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 5 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre.
adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à radiocourtoisie.net.
Eh bien, nous poursuivons notre émission. Alors, nous allons parler de tout à fait autre chose. Jusqu'à présent, on a parlé d'hommes politiques, c'est-à-dire en quelque sorte de sujets volants bien identifiés. La deuxième partie de l'émission, on va parler avec Joël Ménard, directeur fondateur, non, peut-être pas fondateur, non, non, directeur d'une revue extraordinaire, vraiment, qui s'appelle Lumière dans la nuit. Nous allons parler d'ovnis, d'objets volants non identifiés, de phénomènes spatiaux non identifiés, je sais pas trop ce qu'il faut dire. Sujet inspiré par le fait que le GEPAN vient de mettre sur le net, à grand bruit médiatique, plus de bruit d'ailleurs que des faits, divers constats de gendarmerie et autres services, témoignages, etc., sur les phénomènes non identifiés, les phénomènes spatiaux non identifiés. Joël Ménard est également l'auteur d'un livre dont on va parler, qui s'appelle « Men in Black, l'étrange affaire des hommes en noir et des ovnis ». Voilà, mais avant, d'abord on va vous parler du Libre Journal, parce que c'est très joli de faire la publicité des petits camarades, mais qui nous le rendent gentiment. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas la publicité. Ça vous plaît pas qu'on fasse la publicité du Libre Journal, Madame Victoria?
Non, je ne sais pas s'il y a des commentaires d'hiver qui sont échangés avant de l'affaire, c'est trop dommage.
Ne perdez pas. Préférez les commentaires d'été. Alors, allez-y, je vous écoute.
Oui, moi j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, hein, la promo bien méritée d'ailleurs est trop rare de nos confrères. On a passé en revue à peu près toute la presse patriotique, on a failli oublier le Libre Journal. Il n'y a pas de raison, puisque ce numéro 404 d'ailleurs qui sort des presses aujourd'hui même, hein, Serge, vous étiez tout à l'heure le seul à le détenir, il est très plaisamment illustré à la une, mais je laisse l'exclusivité de cette découverte aux abonnés et à ceux qui vont commander ce numéro 404. Et puis nous consacrons deux pages. On n'en a pas parlé tout à l'heure. Enfin, si, on l'a évoqué très brièvement, je crois, c'est ce SMIC, ces indemnités de chômage de 60 mois à 10 000 euros par mois. C'est curieux, le Parisien fait une double page aussi. Là, il nous copie, c'est pas possible. Le même jour, le Parisien sort une double page là-dessus, ainsi que sur les fonds secrets de l'Assemblée nationale. Bon, les grands esprits se rencontrent. Ça explique peut-être d'ailleurs pourquoi le Parisien libéré a augmenté sa diffusion de 2% cette année, à plus de 500 000 exemplaires, pendant qu'à notre grand chagrin, ses confrères Le Monde dégringolent de 19% en un an après justement une nouvelle formule, Libération multiplie les charrettes, et l'Humanité vit des charités de l'État bourgeois. Le Parisien se maintient donc peut-être comme nous en mentant un petit peu moins ses lecteurs. Donc double page sur ce que nous appelons nous plus brutalement que le Parisien le régime des voleurs, avec des chiffres et des détails. François Brignot, monument de la presse patriotique qui nous fait l'honneur et l'exclusivité de sa collaboration, nous annonce en gros caractères qu'il connaît le nom du prochain président de la République, mais il avoue en bas de sa chronique d'ailleurs que là aussi les grands esprits se rencontrent, qu'il y a un titre identique. Le jour où il nous donne le papier, il y a un papier titré dans les mêmes termes signé Georges Dillinger dans Présent le même jour. Mais enfin, c'est quand même intéressant de lire les prophéties, décidément c'est la mode. On a parlé également du PC tout à l'heure et j'ai manqué l'occasion de contredire Jean Madiran, ce qui aurait été quand même un événement important dans mon existence.
Manier avec précaution quand même.
Il nous parlait d'un PC toujours efficient. On a fait une petite étude, nous, et découvert, je vais donner qu'un détail, mais que ce PC monolithique et tout puissant, eh bien, il y a plus d'un tiers de ces élus du 9-3 qui se sont publiquement pas dans les réunions de cellules ou bistrot après, mais publiquement déclaré contre la candidature de leur secrétaire général, au point que le principal député, M. Braouzec, député PCF, soi-disant, du 9-3, non seulement il est contre la candidature Buffet, non seulement il est pour la candidature Beauvais, mais il est le porte-parole de Beauvais. Alors, bon, le parti est mal parti.
Le parti n'est plus ce qu'il était.
Non, il est mal parti, c'est la chute finale. Voilà, on a revue de presse. Michel Blanzac, on a repiqué à nos chers amis de Balcon Info. Faut pas le dire.
Non, c'est pas ça, mais c'est pas l'essentiel
Ah, ça m'amuse.
De ses qualités. L'essentiel de ses qualités, c'est qu'il est d'une pertinacité. C'est comme ça qu'on dit.
Pertinence.
Pertinence.
Ah, ça va avec la bravitude, la pertinacité.
Pertinax.
Il faut laisser la pertinacité.
La bravitude et la pertinacité.
La bravitude à Ségolène. Donc lui, il nous chronique toujours le mondialisme et les formes très variées de l'oppression mondialiste qui s'installe. Le porno business, j'aurais jamais cru voir la tête de Ron Jeremy, les connaisseurs et même certaines connaisseuses apprécieront ce groin dans le Libre Journal, mais bon, tout à l'heure, je vous rassure, il est habillé.
C'est moi qui l'habille, vaut mieux. C'est hallucinant de voir la tête. C'est
d'une porno star.
C'est la plus grande star du porno américain. Je publie pas ça pour le plaisir, je publie parce que c'est une étude sérieuse qui a été faite.
Comme plaisir.
Sur le rôle exact de la pornographie, et c'est surtout sur les forces ténébreuses qui manipulent ce business. Et alors, on voit la tête de la pornostar, qui est la plus grande pornostar de l'histoire du cinéma, qui s'appelle Ron, enfin qui se fait appeler Ron Jeremy, en réalité il s'appelle je sais pas comment, mais vous le verrez dans le papier, et c'est véritablement un groin. On peut pas imaginer une hideur pareille. Enfin bon, je sais pas, il faut regarder sa photo. Il a tourné 1600 films quand même, c'est hallucinant.
1600
sans fatigue par an. Et on voit bien cet article décrit l'objectif réel de cette espèce de folie génésique qui s'est emparée du cinéma américain, et même en France maintenant, et un peu partout dans le monde avec les vidéocassettes et tout, et on voit que ça poursuit un but extrêmement précis de destruction des structures morales, des valeurs fondamentales de nos sociétés. Et tout ça dans une même main.
Changeons de sujet et de continent, puisque notre correspondant à New Delhi est en pleine forme, et d'ailleurs il est en pleine forme à Jaipur et non pas à New Delhi. Reportage à Jaipur d'excellente qualité. Un article très amusant, les animaux votopestilentiels de Nicolas Pérégrin, que nos auditeurs ont déjà entendu à ce micro. Une étude, on l'a cité tout à l'heure, sur les droits exorbitants, les privilèges exorbitants des hors-la-loi, dont on a expliqué tout à l'heure qu'ils avaient même la drogue gratuite s'ils étaient drogués. C'est quand même quelque chose de fascinant. Un grand article autour de la désinformation sur la colonisation de notre ami Arnaud Raffard de Brienne. La chronique de la Biggie Marie. La décade du Marquis, donc le feuilleton sur sa croisière en mer de Chine est terminée, il reprend ses mondanités parisiennes. Voilà, donc 24 pages essentiellement rédactionnelles. Tout ça pour 5 euros, si on veut donc commander ce numéro 404 comme spécimen, ou plutôt un carnet de timbres, demande la directrice. 110 euros pour s'abonner un an, donc c'est un décadaire qui paraît 3 fois par mois, si j'ose ainsi m'exprimer.
Ça arrive assez souvent au décadaire, ce genre de choses.
Voilà, alors les chèques sont à faire à l'ordre de SDB. 4 places France List, 75-010 Paris. Et nous aussi, on n'a pas un site internet vraiment à nous, mais on a des très bons amis qui d'ailleurs vont mettre les pubs de nos bouquins bientôt en ligne, si on leur demande poliment, qui ont créé un très joli site où on peut feuilleter notre collection sur plusieurs années et qui s'intitule www.francecourtoise en un seul mot .info Dixie.
Merci Patrick. Vous allez au théâtre là?
Je vais au théâtre, je ne sais pas ce qui m'attend, parce que c'est mon fils qui était à l'écoute d'ailleurs, ça lui arrive pas souvent, j'espère que j'ai fait bonne figure, si j'ose m'exprimer ainsi,
c'est une radio,
voilà, qui me téléphone tout à l'heure, qui m'invite au théâtre, voir je ne sais pas quoi, je raconterai ça dans le journal.
Merci, à plus tard. Alors, toujours avant de donner la parole à Joël Ménard, on va y venir, mais nous avons nos deux experts habituels. D'une part, Jean-Pierre Rondeau, qui est expert en placement fructueux. C'est ça qu'on peut dire ?
De temps en temps.
Si vous parlez
de temps en temps, pardon.
Et puis, ensuite, François Robot, lui qui est expert en gastronomie et consommation plutôt directement alimentaire, parce que
directement alimentaire.
Alors Jean-Pierre, la situation générale sur le front des troupes bancaires, assurances et autres
domaines. Dans les domaines, il y a eu pas mal en fin d'année dernière. J'avais préparé ça pour une précédente émission, mais là je n'ai pas porté tout ce qui a été modifié en termes de transmission de patrimoine et en termes de protection aussi des personnes protégées, mineures, etc. Donc ça, si vous voulez, on en parlera un jour. Au niveau des marchés, donc j'ai dit un peu rapidement, puisque j'étais interrogé en fin de réunion la dernière fois, que je pensais que les semaines et les mois qui allaient venir allaient être des mois agités. Donc j'avais allégé les positions qui étaient déjà relativement prudentes de mes clients. Donc la bourse a d'ailleurs remonté ces deux ou trois derniers jours, mais je reste quand même très prudent. Et d'ailleurs, tous les contacts que j'ai avec les gérants et les analystes de la place font penser que les positions sont un peu les mêmes, c'est-à-dire que tout le monde a envie que ça continue à monter pour faire des affaires, pour placer des fonds communs, etc. Mais que on est sur des positions qui n'ont aucune certitude aujourd'hui économique, si ce n'est que on espère notamment que des pays comme la Chine, comme le Mexique, comme les pays de l'Est vont continuer à attirer l'économie mondiale. À côté de ça, on a quand même quelques inquiétudes. Je parlais de la prime de risque, c'est-à-dire que le fait que les actions aient monté et que on a quelques tensions sur les taux, la prime de risque, c'est-à-dire la différence entre ce que peut rapporter une action et ce que peut rapporter un produit dit sécuritaire comme des obligations ou plus sécuritaire comme du monétaire. La différence donc de rémunération n'est pas suffisante aujourd'hui. C'est un des points. D'autre part, l'inquiétude principale est le ralentissement aux États-Unis. Et aujourd'hui, on a eu un ou deux mauvais chiffres. Malgré tout, le marché s'est quand même relativement comporté pour ce qui concerne la France. Pour les États-Unis, il était plutôt plat au moment où j'ai quitté mon bureau. Donc ralentissement économique aux États-Unis qui pourrait être aggravé par le problème de l'immobilier dont j'ai parlé la dernière fois, les crises, et avec au moins une faillite déjà de banques spécialisées dans le crédit, où elle-même, en tant que banque qui n'a pas de dépôt, se fait prêter l'argent, et donc ce sont les autres banquiers qui lui ont coupé les fonds. Et donc, elle a été amenée à déposer son bilan. Les inquiétudes sont aussi le fait que les Américains ont commencé à mettre quelques restrictions à l'importation de produits chinois. Et donc, qu'il pourrait y exister une rétorsion en échange, c'est-à-dire que les réserves chinoises sont actuellement relativement importantes en termes de dollars, et donc que l'on pourrait, que les Chinois en répression pourraient se dégager donc du dollar, comme on l'a dit un peu des Iraniens il y a quelques mois.
Pardon de vous couper, mais si les Chinois se débarrassent de leur stock de dollars,
oui,
ça va faire encore baisser le dollar. Donc.
Ça ferait baisser le dollar.
Par conséquent, ça fait augmenter l'euro.
Ça nous met
en position non concurrentielle encore plus. Avec les conséquences probables sur l'emploi en France.
Absolument, oui. Mais les Chinois ont quand même un frein à ce genre de mécanique, c'est que leurs réserves, comme je le dis, sont en dollars, et donc ils auraient aussi tendance à se ruiner eux-mêmes s'ils créaient une crise importante sur le dollar. Donc je pense que malgré tout, mais ça existe, ça fait partie des inquiétudes. Le fait qu'aujourd'hui les actions sont à leur prix, alors qu'elles étaient plutôt pas chères il y a quelque temps, elles sont pas chères aujourd'hui. aujourd'hui par rapport à ce qui se passait il y a, au moment du, des précédents cracks, mais elles sont à leur prix, donc il n'y a pas de logique à ce que elles augmentent beaucoup plus. Voilà une série, je dois en oublier, mais voilà une série de termes qui me font penser qu'à court terme, il faut être plutôt prudent, sachant que compte tenu de ce que je disais sur l'entraînement économique, sur le fait que les entreprises continuent à progresser en termes de productivité, et malheureusement au détriment de l'emploi, puisque la productivité c'est souvent au détriment de l'emploi, donc les entreprises continuent à améliorer donc leur productivité, donc ça reste un élément favorable, et autre élément favorable, ce sont les opérations de regroupement et de rachat de titres par les entreprises. Donc tout ça stimule le marché. Donc ça, ce sont des points plutôt favorables. Donc pour ce qui me concerne,
on peut dire que l'embellie qu'on nous promet ou qu'on nous dessine sur l'emploi, ça va pas durer. Donc, parce que le
pour ce qui me concerne, et là c'est pas tel seulement le conseiller en gestion de patrimoine qui parle, mais c'est aussi celui qui fréquente de façon économique le monde des banques, des finances, etc. Et puis l'ancien maire adjoint. Je pense que aujourd'hui l'amélioration de l'emploi n'existe pas. Il y en a pas. Je le vois à travers les gens qui viennent me parler. Je le vois à travers pas mal de gens qui m'adressent des CV pour essayer de faire embaucher un fils ou un enfant. Et puis j'ai deux cas, j'en avais cité un, mais j'ai une de mes amies qui avait un bon salaire et qui, parce qu'elle travaillait dans l'entreprise de son époux, et qui a été mise au chômage à quelque chose comme 56 ans. On lui a demandé de faire 5 heures de repassage par semaine, et à partir de là, on ne lui demande plus rien jusqu'à l'âge de sa retraite en matière d'emploi. Donc, elle est sortie du marché. Et j'en connais une autre qui elle atteint 57 ans, et elle vient de recevoir un courrier lui disant que c'était plus la peine qu'elle recherche un emploi. Elle continuerait à toucher ses allocations sur. Alors, bon, ce sont des personnes qui ont travaillé toute leur vie, et tant mieux. Mais c'est sûr que ça fait partie de ces chiffres faux qui sont réellement faux en termes de chômage.
On voit bien que c'est totalement entré dans les mœurs. Moi, je vois en ce moment, là, je fais des démarches. Partout où je vais, on me dit, bien entendu, vous êtes retraité.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on considère qu'un homme de 60 ans, bien entendu, il est à la retraite. Soit retraite anticipée, soit licenciement, comment dit-on, cette situation bizarre qui consiste à avoir un emploi sans en avoir un, donc ça, c'est rentré dans les mœurs qu'à partir de que maintenant, un homme de 60 ans, il travaille plus, quoi. Il est à la retraite ou au chômage ou en attente d'une retraite complète. Et c'est fou quand on y pense, parce que c'est vraiment se priver. Là, je parle pas pour mon compte personnel, mais c'est vraiment à 60 ans, enfin disons entre 50 et 65 ans, qu'un homme est dans la plénitude de ses moyens professionnels. Il possède parfaitement son sujet, il sait ce que. Et ces gens-là, on leur dit, bon, maintenant il faut rentrer chez vous pour laisser la place à des jeunes qui savent ni lire ni écrire. Et on s'étonne que le pays soit en pleine capillotade. Bon, c'est pas très étonnant, faut dire. Mais ça ouvre des horizons. Ça ouvre des perspectives assez effrayantes sur la situation que va rencontrer le futur président de la République.
Je pense qu'en matière de chômage,
ils ont vraiment du souci à se faire.
Oui, c'est pas un cadeau.
Alors un conseil.
Donc moi j'ai allégé. Donc si les marchés doivent baisser, tous les marchés vont plutôt baisser. J'ai plutôt en ce qui me concernait. Alléger les positions actions, tout ce qui est fonds communs mondiaux, pour la bonne raison que la plupart de ces fonds sont investi proportionnellement au poids de chaque marché, action. Et donc le marché américain pesant beaucoup dans les indices mondiaux, il est évident qu'il pèse beaucoup dans les fonds qui sont dits mondiaux. Et donc j'ai demandé à mes clients d'accepter de vendre donc la partie de fonds mondiaux, la partie fonds actions américaines, et aussi une partie des fonds Asie qui eux cotent en dollars. Je parle pas de bien entendu du Japon. Japon, mais je parle des fonds asiatiques, sachant qu'on peut jouer l'Asie à travers les entreprises européennes qui travaillent notamment avec l'Asie. Donc je préfère n'avoir qu'un risque dans ce que je conserve en action, qui est le risque du marché action, et ne pas conserver le risque des devises, d'autant que les devises sont quelque chose d'impossible à gérer. Voilà. Donc voilà. Et je voulais dire un mot, si vous permettez encore, sur l'immobilier, puisque j'avais été interpellé juste en fin d'émission. Pourquoi je pense que l'immobilier peut baisser, et je ne suis pas d'ailleurs le seul à le penser. C'est parce que d'abord il a monté de façon très forte récemment. Je l'ai dit la dernière fois rapidement, mais on n'est pas dans la position du crack précédent de 90 du début des années 90. Dans la mesure où il n'y a pas la spéculation, où on se vendait des promesses de vente sans même acheter, et donc c'est ce qui faisait la spéculation. Là, il y a eu vraiment des achats, et des achats pour besoin d'habitation, pour besoin donc de propriétaires qui louent, et notamment à travers les loyers ou bien. Mais on le voit, il y a actuellement, aujourd'hui, la main est passée très clairement des vendeurs aux acheteurs. C'est les acheteurs qui ont la main. On met plus de temps à vendre. Les loyers aussi ont baissé. Un appartement rapporte aujourd'hui de l'ordre de 4%, c'est pas suffisant. On oublie toujours, en termes d'action et en termes d'immobilier, on oublie toujours que c'est pas la spéculation, c'est pas la hausse qu'on attend d'un marché qui devrait faire l'achat, c'est ce qu'on en attend de revenus pour les années à venir.
Et quand vous dites 4%, c'est le revenu d'un appartement
brut.
Ça veut dire que le revenu brut d'un appartement brut.
Oui, alors que
donc
vous rentrez.
Le revenu final, c'est à peu près la caisse d'épargne.
C'est même moins souvent, parce que vous savez qu'en matière d'immobilier, donc l'imposition est pratiquement totale, puisqu'on ne bénéficie pas d'abattement. Hein, on parle actuellement, certains attendent parce que Sarkozy peut-être remettrait la déduction des crédits immobiliers personnels. Donc en ce qui me concerne, moi je peux pas inviter les gens à acheter de l'immobilier, sauf éventuellement pour un besoin personnel, pour se loger au lieu de payer des loyers, parce que les taux des crédits ne sont encore pas trop chers.
À la limite, il vaut mieux placer l'argent et payer un loyer.
Mais si on doit habiter, oui, le calcul est quand même pas si facile que ça. Il faut regarder un tas de critères, et je pense que la meilleure des retraites qu'on puisse avoir, la meilleure sécurité qu'on puisse avoir, c'est d'être propriétaire de son logement avant les fonds de pension, avant tout ça. Donc être propriétaire, je pense que c'est important. Mais pour tout ce qui est d'achat, et notamment avec les carottes fiscales de type robien, etc., qui d'ailleurs en ce moment se passe, n'ont pas une explosion assez extraordinaire avec les Borloo qui sont les avantages fiscaux nouveaux. Donc il y a un ralentissement. Il y a un parc immobilier en province qui n'est pas loué, ou qui est loué de neuf de ce type robien, qui est loué avec des loyers qui ne sont pas du tout ceux qui avaient été promis par les vendeurs de produits, parce qu'on vend un produit, on vend pas de l'immobilier, on vend un appartement avec une défiscalisation. Hein. Donc beaucoup de gens ont acheté, on agite une carotte fiscale, et puis on ne regarde pas où c'est placé, on ne regarde pas le marché, quelquefois on ne va même pas voir sur place ce qu'on a acheté, mais parce qu'on a acheté en ayant la possibilité
de la multipropriété, hein. Ça il y a quelques années.
En quelque part, oui,
milliers
absolument.
De gens se sont fait complètement étrillés par ce système.
Voilà. Donc, un tas de raisons, le fait que les crédits aussi pourraient monter, donc puisque on a quelques craintes d'inflation, c'est le fait que les crédits montant, les gens sont moins emprunteurs, et puis les difficultés aussi de l'économie, le chômage dont on a parlé, etc. Et les prix ayant beaucoup monté, les gens deviennent insolvables. Et c'est le cas donc de la faillite de la banque américaine, c'est que les Américains aujourd'hui, beaucoup d'Américains sont aujourd'hui en difficulté pour payer les loyers qu'on les a incités à payer en matière de crédit. Voilà.
Merci Jean-Pierre Rondeau. Alors, si on veut vous parler personnellement, il y a un téléphone. Il y a
01 44 51 62 20. Et j'ai un email, si vous voulez, JP Rondeau. Rondeau, c'est EAU, donc tout collé, JP Rondeau, @megarafinance, en un seul mot, sans S. .fr, et surtout pas d'accent sur le mais de Mégara. J'aimerais bien un jour que vous m'invitiez à parler de mon métier d'indépendant et de toutes les problèmes que nous font l'État, l'État.
On ira au fond.
Pour exercer.
Alors, copie d'un mail envoyé à contribuable associé.
Je ne sais pas si c'est pour vous ou pas.
Dans votre lettre info sondage exclusif BVA, les Français plébiscitent la baisse de la dépense publique. Vous avez laissé passer une erreur. Non, c'est pas chez nous, ça. C'est quant à Jean-Marie Le Pen, 5% des électeurs lui font confiance sur ce point. Ce n'est pas exact. En fait, vous n'en savez rien. Car les Français refusent de donner leur opinion sur la FN. Oui, ça, c'est plutôt relatif à ce qu'on, à ce qu'on disait tout à l'heure. En France, c'est encore dangereux d'en parler avec n'importe qui, surtout avec les journalistes et enquêteurs. Donc, 5% peut correspondre à 10, 50 ou 80, mais certainement pas à 5. Ça, c'est vrai. Oui, je suis tout à fait de cet avis. Et puis, pour en finir avec le sujet de tout à l'heure, ceux qui votent pour Philippe de Villiers le font parce qu'ils pensent que c'est le meilleur, ben j'espère, oui, bien sûr. C'est le seul qui nous propose un idéal, relever la France par amour pour notre pays, et le seul qui est une expérience réussie sur le terrain. On parle de l'exception vendéenne. En Vendée, il y a très peu de chômage et pas de problème de sécurité. J'arrive pas à lire la suite. Pas de problème de sécurité. Donc, oui, c'est vrai que la Vendée est un pays de cocagne. C'est indiscutable. On y est très bien. Maintenant,
Le peuple vendéen, il y a les entreprises vendéennes.
Il resterait à prouver que.
Ou alors, ça voudrait dire que le politique est beaucoup intervenu et donc ça serait presque du serait communisme, mais ça serait contradictoire.
C'est surtout. Il s'agirait de prouver qu'il y a un problème. Enfin, c'est que la question d'échelle n'entre pas en ligne de compte. C'est pas parce que, je le dis sans animosité, c'est pas parce qu'on réussit parfaitement dans une région de France qu'on peut réussir dans toute la France, parce que il est évident que dans les Bouches-du-Rhône, la situation n'est pas tout à fait la même que celle qui.
Puis je connais bien la Vendée. Je m'appelle Rondeau, donc je suis originaire des Herbiers.
Ah. Un auditeur vous écrit, Monsieur Rondeau, les Français ont été appelés à souscrire à une société qui regroupait les banques populaires. Cette société garantissait la Century, qui a eu des problèmes
la
par
Century,
rapport à...
La Century, c'était l'immobilier, ça.
Ah oui, qui a eu des problèmes par rapport à l'immobilier
oui, c'est
des États-Unis.
Non, mais ça, c'est la boîte américaine.
La banque française a plongé. Merci de lire ce message illustratif, voilà, il fut lu.
Ben, je ne savais pas que des banques populaires avaient financé, mais il est possible que dans certains fonds communs, il y en ait, oui.
Et puis pour vous, Serge, cher monsieur, c'est vous qui avez raison. Pertinacité est de l'excellent français. On lit ce mot chez le cardinal de Retz.
Mais voilà.
Et chez le duc de Saint-Simon. Vous êtes, en l'utilisant, dans la meilleure des compagnies. Et c'est signé, bien à vous, Gabriel Matzneff.
Oh, ben, je suis content de savoir que monsieur Matzneff, écoute, il me l'avait dit, mais je me suis demandé si c'était pas un petit compliment qu'on trouvait. Ben non, je salue Gabriel Matzneff.
Et un autre message, les petits hommes verts s'impatientent.
Voilà, ben petit gris aussi. Mais d'abord, je pense que Joël Ménard ne m'en voudra pas si je permets à François Robot de nous livrer sa chronique gastronomico-consommatrice.
Oui, c'est pas facile.
C'est pas facile.
Pas facile.
De quoi allez-vous nous parler?
On va essayer de vous faire découvrir une petite adresse. On va quitter la Vendée pour l'Aveyron. L'Aveyron qui est un des départements français où il y a le plus d'Aveyronnais à l'extérieur du département que dans le département. Donc déjà, vous les retrouvez dans beaucoup de véritables et authentiques bistrots, surtout à Paris. Et actuellement, c'est la guerre des bistrots. Alors, il y a les faux bistrots, les vrais bistrots, les bistrots des grands chefs. On ne sait plus exactement ce que ça veut dire. Heureusement, en 86, une association de francs buveurs, ça ne déplaira à personne. Je vous rappelle cependant qu'il faut boire avec beaucoup de modération. L'association Tradition du Vin, donc des francs buveurs, des patrons de bistrot et des journalistes, parce que les journalistes sont dans tous les coups, il n'y a aucune raison qu'ils ne s'occupent que de politique, ont créé la bouteille d'or. L'or, tout ce qui brille n'est pas or, malheureusement, mais cette distinction pour récompenser un bistrot qui va lui-même acheter son vin sur place. Avant, il y avait la mise en bouteille en cave. Aujourd'hui, pour des raisons de transport, d'hygiène, de facilité, tous les vins s'achètent en bouteille. Et je cite le président de cette valeureuse association parisienne, Tradition du Vin. Voilà, cette distinction annuelle honore un bistrotier qui sert des vins de qualité, qu'il est allé lui-même sélectionner dans les vignobles. Il doit savoir faire partager sa passion à ses clients, qui seront tous assurés de recevoir un accueil chaleureux, ni baratin, mais bar à bon vin. C'est bien. Facile, mais c'est bien. Ouais. Alors cette année, ce sont deux jeunes et solides Aveyronnais qui ont passé leur jeunesse à travailler et à apprendre la cuisine. Il y en a un qui a fait l'école Grégoire Ferrandi, qui est une école de commerce de la Chambre de commerce de Paris, pardon. Excellente école. Il y a même dans cette école une école supérieure de cuisine française où on apprend vraiment la cuisine traditionnelle. C'est du solide, c'est du sérieux. Et l'autre a fait également une autre école hôtelière. Il se prénomme, il s'appelle, je reprends mes fiches, Vincent Delpuech. Ah, ça, plus aveyronnais que ça, ça n'existe pas. Possible, et Laurent Caïla. Et donc, ils ont récupéré une affaire familiale il y a quelques années. Cette affaire familiale, c'est un lieu paradisiaque. C'est en face le métro aérien à l'angle de la rue de la Glacière et du boulevard Saint-Jacques, dans ce coin-là. Il y a un très bel hôtel fréquenté par les touristes. Un peu plus loin, il y a un hôtel de la République française où, malheureusement, ils ont eu la mauvaise idée de mettre des barreaux devant les portes.
Ce qui fait qu'on ne peut pas entrer. Sur recommandation spéciale.
On ne peut pas sortir comme on veut. On ne peut surtout pas aller boire un coup.
Et puis tout près, il y a également un autre hôtel qui est un hôtel réservé, réservé, mais enfin... presque exclusivement fréquenté par des prêtres traditionnalistes.
Ah, ça, celui-là,
ce qui fait
je
qu'il y a tout le temps un envol de soutane dans le coin. Ça,
et puis, légèrement juste derrière, il y a un hôpital psychiatrique qui avant s'appelait Sainte-Anne et qui s'est beaucoup amélioré parce que je crois que la psychiatrie a fait d'énormes progrès. Donc voilà, le décor est planté. C'est une immense brasserie avec une terrasse. À l'intérieur, évidemment, on n'y va pas, ça nous rappellera des souvenirs, Serge, pour demander un thé au lait, quoi qu'il le serve avec beaucoup de sourire. Il y a 35 variétés d'excellents vins au verre, ce qui est un véritable record, car de plus en plus, et je vous le recommande, et je sais de quoi je parle, ne buvez pas des demi-bouteilles, ne buvez pas des bouteilles entières, buvez un verre de vin, vous connaissez le slogan, il est tout à fait exact, la répression est totale actuellement, et l'alcoolémie, je vous le rappelle, et le taux d'alcoolémie, 0,50.
25 maintenant.
0,25
Implacable.
Je ne le savais pas. Donc, évidemment, le vieil adage également consiste que, et le corps médical nous l'enseigne en permanence, qu'il ne faut pas manger sans boire et réciproquement. Donc, pour casser la croûte, il y a tout ce qu'il faut. Ça arrive aussi de l'Aveyron, ça arrive de l'Aïol, un pays célèbre pour ses couteaux, son fromage au lait cru, véritablement au lait cru, l'aligot, qui est fabriqué avec une purée de pommes de terre délicieuse et de la tomme fraîche d'aligot. Les charcuteries, là-bas sur place, il y a plusieurs charcutiers, mais un charcutier particulièrement a réussi à se tailler la part du saucisson sec exceptionnel, c'est Conquet. Il est très connu. Il fait également de la saucisse sèche, pas facile à prononcer, je m'en suis bien tiré, du jambon sec, des pâtés exceptionnels, du pain de poilane, parce que dans Tradition et du vin, il y a un directeur de la Millionnelle que nous avons connu, Serge.
Que nous regrettons
voilà,
beaucoup.
Voilà, qui était véritablement un apôtre du pain, si on peut employer cette expression, et c'était presque la communion chez lui. Il me téléphonait à 6h du matin en disant « Pourquoi tu viens pas manger un croissant ?» À cette heure-là, je m'étais couché très tard et je dormais, donc je lui disais « Lionel, excuse, je te prie de m'excuser, je ne supporte pas les croissants. » Même les tiens, je ne les digère pas. Bon, ça, c'était pour revenir à notre sujet. Donc, une très belle sélection de vins également en bouteille, à boire à plusieurs, hein, n'hésitez pas, mettez-vous à 5 ou 6, comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Et, évidemment, des plats du jour. Alors, j'ai noté quelques prix qui sont tout à fait exceptionnels. Il y a des planches de charcuterie à 10 euros. C'est assez correct, c'est même très correct parce que c'est très copieux. Il y a un morceau de l'aïeul qui est fourni sur cette planche. Il y a des tartines de pain poilane, je vous en ai déjà parlé. Et puis il y a surtout le menu qui est absolument exceptionnel car les entrées sont à 4 euros. Il y a 3 entrées au choix qui changent tous les jours. Il y a 4 plats vraiment du jour comme leur nom l'indique parce que souvent vous voyez marqué plat du jour.
On sait pas quel jour.
C'était le plat de la veille ou de la semaine dernière à 9 euros. Ça reste aussi très correct. Et puis, vous avez les desserts à 4 euros. Donc, avec un verre
de bon vin, ça fait 20 euros.
Il y a une petite folie. Il y a du Chassaigne Montrachet 2004 de chez Amiot, qui est un excellent vigneron. Et puis, il y a une bouteille de Château Margaux. si ça vous tente, 2004 à 140 euros, ce qui reste également très raisonnable.
Bah, si on est 6 sur la bouteille, oui, un verre, ça va.
Ça va, un verre, ça va.
C'est pour faire l'expérience.
Il faut s'habituer, mais il va falloir passer au verre. Alors, je vous donne l'adresse quand même. En plus, je ne vous ai pas donné le nom de ce véritable authentique bistrot. C'est le Réveil Samaritain.
Oh, c'est très joli, ça.
3 boulevard Saint-Jacques. Tous les saints sont là, quoi. C'est vraiment, c'est la Bible. C'est Jésus est parmi nous. Le miracle n'a pas eu lieu. Paris 14e, bien sûr. Et le téléphone 01 45 65 22 17.
Voilà. 01 45 65 22 17.
Allez-y en pèlerinage, mais soyez sobre.
Le Réveil Samaritain.
Moi, je ferai un gros reproche à notre ami. C'est qu'il pourrait nous donner les adresses une semaine avant. Parce que vous, ça nous donnerait le temps d'aller profiter, parce qu'ils vendent tellement bien les...
Non, mais vous allez voir, nous allons évoluer, parce que nous allons bientôt faire...
Il ne va plus avoir de place.
J'ai des confrères dans certaines grandes radios périphériques. Alors, eux, c'est la dégustation permanente. Donc, ça détendra tous les débats politiques. Et croyez-moi, ça va
avoir du monde,
nous rafraîchir. On en a bien besoin actuellement.
Je vous demande pas de pronostic, François, sur les élections. Vous allez élire le meilleur vin, le meilleur fromage.
J'ai beaucoup retenu le camembert. Là, il y a une bataille en ce qui le concerne. Ouais. Pas le camembert de l'Assemblée nationale, ouais. Mais la bataille du camembert au lait cru. Il y a les traditionnalistes qui sont, et ils ont raison, pour le lait véritablement cru. Il y en a d'autres qui ont des grandes compagnies, on ne va pas les citer parce que je trouve ça scandaleux, qui ont opté pour le lait thermisé, c'est-à-dire le lait qui est chauffé, c'est-à-dire que le camembert n'a plus aucun goût. Il a perdu toutes ses facultés organoleptiques, c'est la même chose pour les autres fromages. Donc le camembert est mal en point. Espérons que le camembert de la future Assemblée nationale ralliera tous les suffrages et comblera où il sera. Oui, exactement, nettement mieux.
Merci François. Et à dans 15 jours, donc, puisque nous n'avons pas d'émission la semaine prochaine.
Serge, j'ai deux petites annonces. Je les fais comme ça, vous serez tranquille à la fin. Le Cercle Jacques Bainville organise demain, jeudi 5 avril, à partir de 19h45, au News Café, 68 rue d'Assas, une conférence de Paul-Marie Couteau. Et puis le centre.
Paul-Marie Couteau, mais j'aurais pu penser qu'il aurait pu, il serait plutôt allé du côté de Villiers, plutôt d'aller du côté de News Café.
Bah oui, qu'est-ce
que c'est un jeu de mots d'une extrême drôlerie ce que je viens de faire.
Le centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, annonce une conférence de Monsieur l'abbé de Tannouarn le mardi 10 avril à 20h sur le thème La gloire du ressuscité. Et puis un auditeur vous demande de préciser à quelle heure et sur quel média Jean-Marie Le Pen parlera vendredi en dernier. C'est sur la 2, non?
Je ne sais pas.
Ça doit être c'est la radio officielle, donc c'est France 2, quoi.
Oui. Pourquoi les autres radios sont pas officielles? Les autres télés sont pas officielles?
La radio officielle, c'est la 2.
Je ne peux pas répondre à cette question. Si quelqu'un a la réponse, il peut nous téléphoner au 01 46 51 00 85 pour nous la donner. Je la transmettrai à nos auditeurs. Merci François, merci Jean-Pierre. Alors maintenant, mais vous pouvez rester si vous vous intéressez à la question. Alors, je reçois comme prévu et comme promis Joël Ménard qui est une célébrité, on peut dire, discrète, extrêmement discrète dans le milieu de la... dans le milieu des ufomanes, ufologues, ufologistes, je sais pas comment il faut dire, car ça fait maintenant près d'un demi-siècle que vous vous intéressez à ces questions, Noël.
Oui, il y a 41 ans que je m'intéresse au problème, et il y a 41 ans, dont 18 ans et demi à plein temps, les 18 ans et demi qui viennent de s'écouler, et c'est pas terminé.
Alors, je me souviens qu'on avait organisé avec vous, enfin, j'avais organisé et je vous avais invité un week-end de conférence qui avait eu un gros succès, d'ailleurs, qui avait beaucoup plu, puis ça représentait un tel travail de mise en place et d'organisation qu'on n'a pas pu continuer, et je le regrette. Un week-end, d'ailleurs, qui s'était passé en partie dans le château de notre ami... ça y est, j'ai un trou. Oh là là, ça devient grave chez moi. Enfin, chez Olyndre, en tout cas. Et puis chez le comte Denis également, où vous nous aviez donné une conférence qui avait beaucoup intéressé nos auditeurs sur la question qu'on va évoquer ce soir, qui est la question des phénomènes spatiaux, des objets volants non identifiés, soucoupes volantes, petits hommes verts, gris, grands hommes, etc. Et là, je vous ai demandé de venir, parce que vous êtes de passage à Paris, vous vivez en province, et vous étiez de passage à Paris, j'ai trouvé que c'était l'occasion de vous donner la parole, puisqu'il y a une actualité toute nouvelle, qui est la mise sur Internet de plusieurs milliers de rapports d'observation qui étaient entreposés jusqu'à présent dans les archives du GEPAN. Alors le GEPAN, c'est le groupe d'études des phénomènes.
Alors actuellement, GEPAN, ça s'écrit G-E-I-P-A-N. Ouais. Ça doit vouloir dire groupe d'études et d'informations. Le I, lui qui est nouveau dans l'appellation, veut dire information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Mais il faut savoir que ce GEPAN ou GIPAN est l'héritier de deux organismes qui l'ont précédé, puisque en 1977, un premier GEPAN, celui-là sans I, a été créé et dirigé pendant un an par Claude Poher. À ce GEPAN a succédé en 88 un organisme qui était quasiment la même chose, mais qui a changé de nom. Ça s'est appelé le CEPRA. Alors, au début, ça a voulu dire Service d'étude des phénomènes de rentrée atmosphérique. Les mauvaises langues, dont je fais partie, ont prétendu à une certaine époque que ça voulait dire service d'explication par les phénomènes de rentrée atmosphérique.
Oui, et ben c'est ce que j'allais vous dire, c'est à ça que ça ressemble, parce que la réponse est dans la question, si j'ose dire. Si on considère que c'est des phénomènes de rentrée atmosphérique, c'est-à-dire des météorites, en fait, pour l'essentiel.
Des météorites ou des objets spatiaux d'origine humaine.
Enfin, voilà,
en nombre de cas.
Donc on a tout de suite répondu aux questions et on arrête les investigations à ce moment-là.
Oui, mais vous savez, ça c'est normal, hein, dans les milieux officiels qui s'occupent de la question. Bien souvent, si ce n'est toujours, les réponses précèdent les questions. Parce que ça évite de poser la question, ça évite de dénoncer le problème.
Quel est l'état actuel de la question? Alors, d'abord, parlons, si vous voulez bien, de la publication sur Internet du GEPAN. Est-ce que ça vous paraît mériter le raffut médiatique qui a été fait autour de cette décision? Ou est-ce que ça ne présente pas autant d'intérêt qu'on pourrait le penser?
Alors, je suis extrêmement mal placé pour vous répondre. Parce que cette question que vous posez, que vous me posez, moi je me la suis très peu posée, à cause du raffut médiatique dont vous parlez, énormément de gens s'attendent à des révélations. J'éprouve une grande sympathie, une grande tristesse envers eux, parce que je crois qu'ils vont vers des désillusions majeures. Mais après tout, j'en sais rien. Cela dit, je serais extrêmement étonné si la mise en ligne de ces dossiers, aussi nombreux soient-ils, comportait des révélations majeures.
Est-ce que ça peut être considéré comme un outil de travail pour les gens qui voudraient étudier de près cette question des phénomènes spatiaux non expliqués?
Là, vous m'invitez à me faire une fois de plus des
encore
copains.
Quelques amis, oui.
Si je dis ce que je pense, ça m'étonnerait.
Vaut mieux, c'est plus simple comme ça. Vous
oui, mais de toute façon, il vaut mieux être sincère, il vaut mieux dire ce qu'on pense. Quoique, dans certains cas, l'inverse est très bien aussi. Moi, je pense pas que... je ne peux rien affirmer. Parce que d'abord, je suis pas allé voir. Ensuite, il est probable que je n'irai pas voir, mais je serais étonné que ce soit un outil très efficace dans la compréhension de ces phénomènes qui sont d'une complexité que la plupart des gens n'imaginent pas.
Est-ce que vous pensez que ce sujet mérite qu'un organisme officiel s'en empare? Ou est-ce qu'au contraire, il faut laisser ça à l'initiative purement privée?
Ah. Alors, Lorsque le problème est abordé par des organismes officiels, situation que nous avons connue quasiment sans interruption en France depuis 1977, le problème est abordé sous un angle bien particulier. Je vous invite à remarquer que le GIPAN, de même que le CEPRA qui l'a précédé, n'emploie pas le terme OVNI. Le terme OVNI est compris par pas mal de gens au sein de la population. C'est pas ce terme-là que le GIPAN emploie. C'est le terme de PAN, P-A-N. Alors, PAN, ça veut dire, je crois, phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors, vous me direz, quelle différence y a-t-il entre un PAN et un OVNI ? Alors, au niveau du phénomène, c'est bien difficile à dire, mais la différence d'appellation est révélatrice d'une orientation de pensée tout à fait différente. Quand on parle d'OVNI, du moins quand les gens avec qui je travaille prononcent le mot OVNI, ça ne comporte aucun préjugé sur la nature de la chose. Alors que l'emploi par le GIPAN du terme PAN, phénomène aérospatial non identifié, sous-entend très fortement et très explicitement une approche dite scientifique. Vous savez, le CNES, et oui, on a peut-être oublié de dire aux auditeurs que le GIPAN, comme le CEPRA et comme le premier GEPAN, sont des organismes qui sont intégrés au CNES. Ce sont des petits départements du CNES.
Centre national d'études spatiales.
Voilà. Alors,
donc c'est tout ce qui est le plus officiel.
C'est tout ce qui est... Ah oui, ça c'est sûr. Et puis le CNES, c'est un organisme dans lequel on ne trouve que des scientifiques et des industriels, mais essentiellement des scientifiques. Il y a peut-être des auditeurs qui savent pas. Oui, on a dit ce que c'est le CNES. Vous avez dit Centre National d'Études Spatiales. Mais je crois que, à la limite, on pourra ajouter un R parce que c'est Études et Réalisation Spatiales. Bon, donc, qui y a-t-il au CNES? D'abord, je crois, des scientifiques. Et puis ensuite, des industriels, des gens qui s'occupent du passage à l'acte. Consécutif à la recherche, à l'étude. Alors, ces gens-là, il faut savoir que parmi ces gens-là, parmi les scientifiques, disons, en France, il y a un état d'esprit qui règne fortement, qui domine de façon colossale ce milieu, c'est l'état d'esprit qu'on peut qualifier de rationaliste. Il y a énormément de rationalistes, surtout en France, parmi les scientifiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans les pays étrangers, mais il me paraît évident que la pensée rationaliste est, en France, sans doute depuis longtemps, en tout cas à l'époque actuelle, extrêmement influente. Or, ces gens-là, les gens qui se réclament du rationalisme, n'aiment pas du tout, pour des raisons sur lesquelles je préfère pas m'étendre parce que je les connais pas et puis que c'est pas mon problème, ils n'aiment pas du tout entendre parler d'objets volants non identifiés qui soient autre chose que des phénomènes naturels. À l'époque où le premier GEPAN a été créé en 1977, je crois savoir qu'il y a eu une réunion du comité scientifique. À l'époque, il y avait un comité scientifique du GEPAN. Et je crois savoir que lors de cette réunion, qui a dû être une des premières, si ce n'est la première, qui se sont tenues, l'un des organisateurs de ce GEPAN, qui nous a donné beaucoup de satisfaction pendant une durée d'un an, a dit, je crois, aux personnes présentes, votre travail consiste à découvrir le ou les phénomènes naturels qui sont à l'origine de ces phénomènes. Bon, je n'en sais guère plus sur la question. Ce que je peux vous dire, c'est que moi je fais de l'ufologie, je suis pas le seul, depuis 41 ans, et je vous disais tout à l'heure que j'en fais à plein temps depuis presque 19 ans, et quand je dis à plein temps, c'est à plein temps, c'est 23 heures par jour. L'idée d'aborder ces phénomènes-là, quand on connaît un peu les formes qu'ils prennent, l'idée de vouloir les aborder uniquement
comme
sous un angle,
naturels,
oui, c'est sous un angle scientifique, c'est-à-dire les considérer comme des phénomènes naturels, ça me paraît être la mise en œuvre d'un a priori que personnellement je comprends pas, qui me dépasse entièrement. Un phénomène naturel, c'est quoi? C'est par exemple un arc-en-ciel. Un phénomène naturel, ça ne manifeste pas un comportement. Ça n'a pas de réaction au fait d'être observé. Si vous regardez un arc-en-ciel, l'arc-en-ciel, lui, il vous regarde pas, je suppose.
Enfin, on peut imaginer, sauf erreur de notre part.
Tout me porte à croire depuis longtemps, et quand je dis tout, je pourrais développer, non pas pendant des heures, mais pendant des semaines, si vous vouliez bien me laisser des semaines pour continuer. Tout porte à croire, c'est une évidence, c'est une certitude absolue, que ces phénomènes sont d'une complexité énorme et qui sont avant tout, c'est ça qu'il faut savoir et c'est ça qui est rarement dit, ils sont révélateurs d'une pensée, disons d'une intelligence si vous voulez, en tout cas qu'ils obéissent à des comportements. Et là, je suis en train de me faire une fois de plus des amis, parce que si on veut rester épistémologiquement correct en la matière, d'abord, il ne faut pas aborder la question, c'est la meilleure manière d'y arriver. Et si jamais on est assez fou pour l'aborder, il ne faut pas insister sur la question du comportement. Or, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, et vous-même, si vous le désirez, à vous documenter vraiment sur ce que sont les rencontres avec des ovnis. C'est pas des rencontres avec des phénomènes, disons, naturels. Ce sont des rencontres avec des phénomènes qui adoptent des comportements. Si vous voyez cette chose-là de très loin, d'accord, ça peut, dans pas mal de cas, se comporter comme un phénomène naturel. C'est-à-dire en ignorant la personne qui regarde. Alors, mais si vous voyez ça de près, ce qui est le cas d'énormément de gens, apparemment, alors là, c'est différent. Vous regardez le phénomène, mais le phénomène, il s'intéresse à vous.
Je voudrais vous poser une question. Je sais que vous n'aimez pas ce genre de question, mais je vous la pose quand même. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, bien sûr. Dans le sens de ce que vous venez de dire, est-ce que vous pouvez nous citer un cas dans lequel vous ayez, à la suite de l'étude duquel vous ayez acquis la certitude, d'abord qu'il s'était réellement passé quelque chose, que le ou les témoins étaient réellement dignes de foi, et que ce phénomène était réellement un phénomène qui sortait de l'ordre naturel des choses, et qui montrait que il y a un échange, en quelque sorte, entre le témoin et le phénomène. Pas forcément une rencontre, pas forcément un échange, c'est-à-dire que vous dites le témoin observe et vous répondez, le phénomène lui n'observe pas. Alors on cherche le cas d'un phénomène qui observe lui aussi et qui le montre.
La fin de votre question modifie un petit peu la réponse que j'avais envie de vous faire. Si vous le permettez, j'oublie.
Alors oublions la fin.
Provisoirement, les derniers mots que vous avez prononcés. Il y a quantité de réponses possibles. Et c'est en fin de compte la question, enfin c'est l'aspect le plus intéressant, je dirais même le plus confortable de la question. Un exemple, dans la nuit du 25 au 26 février 1942, savez-vous ce qui s'est passé dans le ciel de Los Angeles? Peu de gens le savent en France. Il y a des objets lumineux. Alors, il faut quand même d'abord situer le contexte. Fin février 1942, c'était 2 mois et demi après l'attaque des Japonais sur Pearl Harbor et le déferlement des Japonais dans le Pacifique Ouest, enfin dans une zone considérable du Pacifique. les Américains avaient été traumatisés par Pearl Harbor, comme ils ont pu l'être plus récemment par un autre événement dramatique. Donc, dans le ciel de Los Angeles, qui, précisons-le, se trouve sur la côte ouest des États-Unis, donc celle qui était potentiellement la plus exposée à une éventuelle attaque japonaise, des choses rondes et lumineuses se sont manifestées pendant un temps assez considérable dans le ciel de Los Angeles. Bon, les Américains, évidemment, étaient sur leur garde parce qu'ils venaient de découvrir les capacités offensives des Japonais et donc ils avaient de bonnes raisons de prendre des précautions. Quand ces choses sont apparues dans le ciel, les moyens de défense antiaérienne sont entrés en action et au cours de cette nuit du 25 au 26 février 42, 1460 obus, je crois, ou 1360 ont été tirés par la DCA contre ces choses qui étaient évidemment soupçonnées d'être des avions japonais, un peu bizarres puisque circulaires et lumineux, mais quelque chose d'étranger dans le ciel au-dessus de Los Angeles à cette époque-là, évidemment c'était interprété tout de suite comme des engins japonais, ce que ce n'était apparemment pas du tout. Donc la DCA a tiré 1340 ou 1360, je ne sais plus, obus au cours de cette nuit, vous imaginez le raffut, le vacarme. De ce fait historique, dont il est rarement question, beaucoup de gens en France ignorent totalement cette chose-là. Il existe une preuve historique très solide, quoique assez peu disponible en France. Pour en avoir la preuve, il faut se procurer le numéro du lendemain du Los Angeles Times, qui relate l'incident et qui publie une photo dans laquelle, une photo qui est célèbre mais insuffisamment célèbre, sur laquelle on voit des faisceaux de projecteurs de DCA et pris à l'endroit où ces faisceaux convergent, un certain nombre de disques lumineux. Donc la DCA a tiré pendant une bonne partie de la nuit sur ces choses rondes qui tournaient dans le ciel, avec la crainte que ces choses rondes et lumineuses lâchent des bombes, ce qui n'a pas été le cas, il n'y a pas eu de bombes qui soient tombées sur la ville, et avec l'espoir d'en descendre, ce qui ne s'est pas produit non plus. Outre l'article du Los Angeles Times, qui est si peu connu en France et qui mériterait tant d'être connu, il y a un livre qui a été publié aux États-Unis il y a 2 ou 3 ans sur le problème. J'ai un petit trou de mémoire quant au nom de l'auteur, mais le livre s'appelle « La bataille de Los Angeles ». C'est un livre américain qui n'est pas traduit en français, mais que d'ailleurs je ne possède pas, donc j'en parle sans l'avoir eu entre les mains. On peut pas tout faire, mais c'est un livre qui fait le point sur cette affaire. Ce simple épisode de la nuit du 25 au 26 février 42 devrait suffire à faire comprendre à des observateurs impartiaux et ouverts qu'il y a vraiment un problème. Parce que qu'est-ce que c'était ? C'était pas des Japonais. On sait tout maintenant de l'état de l'aviation japonaise. Ils n'avaient pas d'avion circulaire et lumineux. Et ils étaient très peu capables de frapper le continent américain. Donc c'était autre chose, et de cette autre chose, il existe des preuves historiques.
Alors, est-ce qu'il y a eu... Il existe des preuves historiques, il existe des photographies, il existe un article dans le Los Angeles Times. Est-ce qu'il y a eu un travail d'investigation scientifique qui a été fait par la suite par des services spécialisés États-Unis ?
Sur ce phénomène du 25 au 26 février, je l'ignore, je préfère ne pas vous répondre sur cette question, puisque je n'ai pas eu le livre entre les mains, mais je crois que le contenu du livre est assez riche. Il faudrait d'abord se le procurer avant de répondre à votre question.
Alors maintenant, il y a une autre question qui se pose, c'est celle de la volonté ou de l'objectif qui est celui des gens qui créent des organismes spécialisés officiels, comme le GEPAN, comme le CEPRA, comme aux États-Unis, diverses organisations qui ont donné le projet Blue Book ou les choses comme ça. Je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça, l'étude de différents cas.
Oui, la comparaison me paraît très bonne, parce que on sait aujourd'hui de façon certaine que le projet Blue Book, qui a focalisé l'attention de beaucoup de gens pendant des années et des années, n'était en fait qu'une vitrine officielle destinée à amortir la curiosité du public, alors que par ailleurs, mais vraiment par ailleurs, dans l'ombre, si j'ose dire, le phénomène était étudié d'une manière beaucoup plus sérieuse.
Alors voilà, c'est ça, ce que je voulais vous demander, c'est ce que vous pensez de cette hypothèse selon laquelle on crée en France, ou en général, mais pour ce qui est de la France, on crée un organisme comme le GEPAN ou comme le CEPRA, qui sont des organismes en fait de détournement de l'attention, on les infiltre dans des... Enfin, on les met à l'abri d'une structure qui, elle, est totalement incontestable par les résultats qu'elle obtient dans des domaines proches. C'est le cas du CNES, qui est quand même
une réussite totale.
C'est la fusée Ariane, c'est Kourou, c'est tout ça. Donc, le professionnalisme des gens du CNES n'est pas contestable. Et on met à l'abri de ce professionnalisme vérifiable des organismes qui, eux, sont des organismes tout simplement de détournement d'attention, de tromperie, en disant c'est cautionné par le CNES à son corps défendant.
À son corps défendant, je crois.
Voilà. Et il s'agit de dire aux gens, bah, écoutez, vous avez la preuve que tous ces trucs sont bidons, et c'est prouvé par le fait que, quand même, c'est sous le contrôle du CNES. Et le CNES, c'est pas un truc, c'est pas un organisme de manipulation de l'opinion publique. C'est un organisme qui fabrique quelque chose vraiment qui est très important, qui a fait la gloire de la France dans le domaine spatial.
Il résulte de ça des tensions, des tiraillements qui ont été particulièrement évidents et grave à l'époque du CEPRA, hein, c'est-à-dire entre 88 et 2005 ou 2006. Le responsable du CEPRA, qui n'arrêtait pas de se plaindre des moyens insuffisants mis à sa disposition, a été l'objet d'attaques extrêmement dures de la part des milieux rationalistes, tout simplement parce que vers la fin de sa prestation aux commandes du CEPRA, il avait exprimé un petit peu trop clairement ses convictions, qui étaient qu'il y avait véritablement quelque chose qui se promenait dans le ciel et qui n'était pas répertorié.
Maintenant, on peut quand même comprendre qu'en bonne gouvernance, comme on dit aujourd'hui, un pouvoir se dit on n'a pas l'expérience nécessaire et on n'a pas les moyens probablement indispensables à la gestion des conséquences de la révélation au grand public de l'existence de phénomènes de cette nature.
Oui, ça c'est...
Donc il vaut mieux les nier.
Ce que vous dites là, c'est peut-être exact, ça a de grandes chances de l'être. Oui, les nier ou les minimiser.
Ou les minimiser.
Parce que ces phénomènes sont maintenant beaucoup plus minimisés que niés. On en a vu un exemple à la télévision la semaine dernière. Un exemple très probant.
Vous parlez de quoi, là, précisément?
Je parle d'une émission, une émission de télévision la semaine dernière, qui était dans le droit fil de presque toutes les émissions de télévision depuis, 25 ans ou 30 ans, c'est-à-dire un noyage de poissons de grande envergure, avec occultation de tous les détails qui pourraient intéresser les gens curieux qui aimeraient se documenter sur la question. Il y a eu en tout... Moi, écoutez, au cours de ma carrière d'ufologue, qui est pas courte maintenant, j'ai vu une émission de télévision bien faite, honnête, instructive, remarquablement faite d'ailleurs. C'était sur Arte en juin 2005 ou 2006 2005. J'ai peur de me tromper d'année. Excusez-moi. J'avoue avoir un trou de mémoire. C'était le 8 juin 2005 ou 2006. C'était remarquable. C'est l'émission, c'était une émission fabriquée par la partie allemande de Arte. Mmh. Dans une série qui s'appelait La Guerre Froide. Cet épisode s'appelait Les OVNIs à la Guerre Froide. Et c'était quelque chose de, d'instructif et de, d'honnêtement construit. C'est la seule émission de télévision acceptable que j'ai eu la chance de voir en 41 ans. Par contre, des émissions bidons, truquées de A à Z, j'en ai vu un nombre tel que maintenant je ne supporte plus guère un poste de télévision que éteint.
Alors je signale que je rappelle que je reçois Joël Ménard, c'est vrai qu'on m'invite à rappeler le nom de des intervenants dans cette émission, Joël Ménard qui est le directeur d'une revue dont je recommande la lecture car elle est absolument passionnante et elle est faite avec un sérieux rare, hein, sur de rarissime dans ce genre de domaine. C'est une revue qui s'appelle Lumière dans la nuit. Et sérieux, une honnêteté, on va y venir tout de suite, exceptionnelle, et qui a publié également un livre intitulé Men in Black, et je voudrais qu'on garde quelques minutes pour parler de cette affaire des hommes en noir. Mais je voudrais parler tout de suite de l'honnêteté scrupuleuse de Lumière dans la nuit, car on pourrait penser... Et d'ailleurs, on aime bien penser, ou on aime bien faire croire, que les gens qui s'intéressent aux questions d'OVNI, disons pour simplifier, aux phénomènes spatiaux non expliqués, sont des illuminés, des dingos, qui se tournent des films, qui se font des illusions, qui se fabriquent un petit domaine magique. Et il faut bien reconnaître quand même que certains, je pense à mon vieux camarade... Jimmy Gueux, aujourd'hui défunt, a probablement à son corps défendant ou involontairement concouru à donner ce genre d'image aux, aux passionnés d'ufologie, parce que Jimmy était un type adorable. Enfin, il était quand même un peu toqué, il faut bien reconnaître, gentiment toqué, mais un peu toqué. Et alors, naturellement, ça permet aux adversaires de la question, ou à ceux qui voudraient qu'on en parle moins, de focaliser sur l'affaire de Sergi Pontoise, par exemple, qui s'est terminée en jupe boudin ridicule, dans laquelle Jimmy s'était laissé avoir. Et alors, je reviens donc à Lumière dans la nuit. Vous, vous avez toujours eu à cœur de pousser les enquêtes jusqu'au moment, jusqu'au point ultime, et quand vous arriviez à la conclusion, même si vous aviez pu croire le contraire avant, quand vous arriviez à la conclusion que ça n'était pas fondé, vous n'hésitiez pas à le dire. Je pense à des, notamment des affaires d'adduction, d'abduction, des affaires d'enlèvement.
Oui, c'est vrai. Par exemple, dans le dernier numéro, il y a un article de Jean Sider qui nous explique que la fameuse histoire de téléportation en Amérique du Sud, ouais, la téléportation des époux Vidal, voilà, est bidon intégral. De A à Z.
Or, c'est probablement un des montages les plus intelligemment réalisés, parce que beaucoup de gens y ont cru longtemps, étant donné qu'on avait installé dans le récit de cette affaire, et vous me corrigez si je me trompe, mais des espèces de clapets qui empêchaient de revenir en arrière, et on avait donc d'aller à la source de l'information.
Vous dites que vous êtes trop élogieux à notre égard, vous dites que nous poussons les enquêtes à fond. Ça, c'est très gentil, mais regardons les choses en face. Ça laisse supposer que nous disposions des moyens d'enquête et de pousser les moyens nécessaires.
Non, moi je
pour
dis
pousser les enquêtes à fond.
Avec les moyens dont vous disposez, c'est extraordinaire d'arriver à approfondir les questions comme vous le faites.
Bah écoutez, moi ça me fait plaisir ce que vous me dites là, mais moi je suis un petit peu moins optimiste. Je dirais que nous nous efforçons de limiter les dégâts. Parce que en fait, le travail qu'il faudrait vraiment faire pour faire substantiellement progresser la compréhension de ces choses, c'est un travail dont nous n'avons absolument pas les moyens. Quand je dis nous, je devrais dire je, parce que je suis tout seul pour faire ce que je fais. Enfin, tout seul,
avec une petite équipe, avec de collaborateurs,
avec l'aide. ô combien précieuse et indispensable d'un petit noyau de personnes.
Il y a Gildas Bordet, il y a
Jean Sider. Il y a beaucoup de gens. On pourrait les énumérer. Mais enfin, beaucoup de gens. Non, il n'y a pas beaucoup de gens.
Enfin, ceux qui ont.
Il y a des gens qui m'aident à distance par le travail qu'ils font, mais ils sont pas nombreux, ces gens-là. Et les moyens dont nous disposons, ben, c'est très simple. Ils sont mesurables. C'est zéro. Et en plus, nous avons un défaut énorme, c'est que nous sommes, enfin du moins j'ose le croire, en tout cas c'est vrai pour moi, mais c'est vrai aussi pour mes amis, nous abordons la question sans préjugés et en nous intéressant seulement aux faits. Parce que je crois que ce qui est intéressant en matière d'ufologie, à propos des ovnis, c'est de regarder les faits, d'essayer de cerner les faits.
Moi, ce qui m'a frappé chez vous, depuis enfin, un moment qu'on se connaît un petit peu, c'est que vous êtes d'une prudence que je qualifierais de réticente. Vous avancez même pas à pas, mais je dirais presque millimètre par millimètre, toujours en prenant d'énormes précautions. À la fois oratoire et matériel, en disant attention, on dit ça, mais c'est peut-être pas exactement comme ça que c'est passé, il y a peut-être ça, on n'a peut-être pas vu ça, on n'a peut-être pas remarqué ça. Et alors, ça rend la lecture de Lumière dans les nuits particulièrement intéressante parce que on sait qu'on n'est pas emmené en bateau, quoi. Voilà.
Il y a des gens qui vous diraient que ça la rend particulièrement soporifique, et, voire même odieuse, parce que cette attitude.
Bah, il faut qu'ils lisent des contes de fées, c'est autre chose, là.
Mais on en est là. La situation qui règne en ufologie actuellement est d'une complexité invraisemblable, et les gens n'imaginent pas à quel point elle est conflictuelle. Il y a une véritable bagarre, une bagarre, des grandes manœuvres, disons, qui se déroulent.
Et qui s'accompagnent d'antagonismes personnels entre les personnes. Il y a des véritables haines qui se développent entre...
Ah, c'est certain, c'est certain. Moi, j'y ai vu des comportements d'une violence inouïe. Par exemple, des mensonges d'une violence inouïe. Je vais vous citer un exemple. Vous savez pourquoi ? Parce que j'aimerais qu'on en vienne au fait. Ce qui me paraît intéressant en ufologie, c'est pas tellement tout ce qui tourne autour du phénomène, qui est un gigantesque zoo très difficile à décrypter et à décrire. Ce qui me paraît beaucoup plus facile à appréhender et infiniment plus intéressant, et qui en tout cas doit passer en priorité, c'est la connaissance des faits. En parlant des faits, je veux dire avant tout les expériences vécues par les témoins, et puis aussi les formidables anomalies de propagation de l'information. Parce que ça aussi c'est un fait. Alors je vous cite un exemple. Au cours d'une émission de télévision très récente, les malheureux téléspectateurs ont pu assister à la scène suivante. Une question est abordée, posée par, je crois, l'animateur de l'émission de télévision. Est-ce que ces phénomènes-là ont déjà manifesté des comportements agressifs? Réponse d'un participant, qui est un participant régulier à quasiment toutes les émissions de télévision sur le sujet. Oh ben oui, il y a peut-être eu un cas en Amérique du Sud, il y a longtemps. C'est un type qui s'est pris un coup de rayon, et bon, mais enfin, je sais pas très bien. En gros, voilà ce qu'il dit. Hein. Je ne le cite pas de façon textuelle, parce que je n'ai pas enregistré l'émission, mais je crois pas trahir beaucoup sa réponse. Alors, si vous le permettez, Serge De Becquet, je vais vous montrer quelque chose que malheureusement les téléspectateurs ne pourront pas voir, parce que les images passent très mal à la radio, mais je vais extraire un petit document de ma valise. Je vous demande quelques petits instants.
Oui, on va... Je crois savoir de quoi il s'agit. Il s'agit d'un listing informatique.
Voilà. Non, c'est pas un listing informatique.
Non, c'est pas informatique.
Non, c'est une liste, un listing que j'ai tapé avec mes petits doigts sur mon ordinateur. Alors, je vais me lever. Les gens m'entendront moins, mais vous verrez mieux la liste en question.
Elle fait à peu près deux mètres, en gros, quoi, pour simplifier.
Oui, alors, la liste en question, qui ne représente pas la totalité des données disponibles sur la question, mais seulement une partie, Elle est formée d'un assemblage de je sais pas combien de feuilles format A3. Elle regroupe 108 cas de dommages matériels, de dommages physiques subis par des personnes qui ont eu le malheur de voir des ovnis, bien souvent d'un petit peu trop près. Et il y a aussi quelques cas à plus grande distance. Alors il s'agit de dommages graves.
Oui, parce qu'on voit par exemple à Minsk en URSS, le 7 septembre 84, Vladimir Goritsé et probablement Yuri Kabachnikov, donc malaise grave, détérioration de la santé des deux hommes. Gottfriede est décédé en 85 et Kabachnikov a été révoqué en 85 également pour inaptitude physique, c'est-à-dire un an après les faits. À Maranhão, au Brésil, un nommé Vericino a été découvert mort avec des marques de brûlure sur le corps. Une femme enceinte au Brésil a perdu son bébé.
Non, c'est plusieurs. Hein.
Plusieurs, oui.
Oui, parce qu'il faut dire que dans cet ensemble de cas d'agression physique sur des personnes par le phénomène OVNI, dans cet ensemble de 108 cas, qui ne représente pas la totalité des cas connus. Hein. Actuellement, je pourrais vous en citer 184. Mais parmi ces 108 cas, il y en a grosso modo la moitié qui se situe dans le nord-est du Brésil et principalement, je crois, au cours de l'année 79. Mm-hmm. Il y a un cas particulièrement dramatique qui serait peut-être intéressant de signaler. C'est le cas du malheureux Barroso. Alors, je suis en train de le chercher dans
l'assemblage. C'est pas d'un maniement facile, votre.
Non, ben non. Mais non, c'est pas facile parce que c'est long, justement.
C'est long. Oui.
C'est pas facile parce qu'il y a eu beaucoup de cas et non pas très peu. Voilà, j'ai retrouvé Barroso. Alors, le cas de Luis Fernandez Barroso s'est produit au Brésil. À Quixada, c'est dans l'état de Ceará, hein, c'est-à-dire dans la région qui doit se trouver au nord de l'embouchure de l'Amazone. Mm-hmm. Alors, le malheureux Barroso, voilà ce qui lui est arrivé. Pouvez-vous m'aider à retrouver la bonne ligne parce que, ouais, alors, ça se passait le 23-4-76. Description des malheurs qui lui sont arrivés. Perte de la totalité de ses facultés. Perte de poids. Vocabulaire réduit à 3 mots. Est resté grabataire jusqu'à sa mort survenue le 1-4-93.
C'est-à-dire 17 ans plus tard.
Alors, si les auditeurs souhaitent se documenter sur le phénomène OVNI, autrement qu'en regardant des émissions de télévision qui leur garantissent d'en savoir moins à la fin de l'émission qu'au début...
Ils se souviennent plus de la question qu'ils ont posée.
C'est pas ça, c'est que le problème n'est pas abordé, tout simplement.
Oui,
le cas Barroso, on en trouve le... J'ai une fois de plus perdu la ligne. Pouvez-vous me donner un coup de main? Merci. Le cas de Luis Fernandez Barroso, le malheureux, est exposé dans un livre américain, qui est donc un livre en anglais, qui est le merveilleux, l'excellent livre de Bob Pratt, UFO Danger Zone. C'est pages 153 et 99D de ce livre. C'est un livre qui résume les enquêtes faites par un excellent journaliste américain qui s'appelait Bob Pratt, qui s'est particulièrement intéressé à ces cas qui se sont déroulés principalement autour de l'année 79, je crois, dans le nord-est du Brésil. Vous savez, au Brésil, les gens sont très pauvres, et la nuit, ils ont très peu tendance à dormir, parce que la nuit, c'est le meilleur moment pour attraper des poissons ou pour tuer des animaux dans la campagne. Donc, les gens vont à la chasse, à la pêche, ils braconnent la nuit, et Bob Pratt a... décrit avec beaucoup de détails les sévices, on peut dire, qu'ont subi beaucoup de Brésiliens à cette époque-là dans cette région. Alors ça va jusqu'à des choses incroyables, mais si on regarde le phénomène OVNI tel qu'il est, sans se faire d'idées a priori et sans essayer de le réduire à quelque chose d'acceptable. Parce que le phénomène OVNI est par essence quelque chose de dingue, quelque chose d'extrêmement paradoxal, quelque chose de suprêmement invraisemblable. Et pourtant, quand on met le nez dans les témoignages, quand on les compare entre eux, on s'aperçoit que ça a l'air quand même de comporter une certaine substance. Alors, si on... Excusez-moi, j'ai perdu le fil, c'est la fatigue, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire.
Mais on en était au cas Barroso, au travail de Pratt.
Bob Pratt a décrit les épisodes vécus par beaucoup de Brésiliens à cette époque-là. C'est terrifiant. Les gens étaient poursuivis par des choses lumineuses qui les agressaient la nuit, à tel point qu'ils évitaient de fumer, non pas parce que c'est mauvais pour la santé, mais parce que le fait d'avoir une cigarette à la main, une cigarette allumée, les rendait apparemment plus repérables par les choses qui les assaillaient. Et Pratt cite beaucoup d'exemples de gens qui braconnaient la nuit et qui ont été obligés de se planquaient sous les buissons qui essayaient d'échapper à la chose. Il cite même, et là ça va paraître fou à beaucoup de gens, mais tant pis, puisqu'apparemment c'est la vérité, il cite des exemples de gens qui se sont trouvés survolés à très très basse altitude par des objets dont sont sortis des sortes de câbles terminés par des crochets, et ces crochets s'accrochaient à leurs vêtements, et dans certains cas les soulevaient, et le malheureux se retrouvait coincé sous l'objet, soumis à un souffle brûlant, probablement à des radiations aussi, si on regarde le détail des dommages qui ont suivi. Et puis au bout d'un certain temps, paf, le gars tombe à terre. Voilà des cas d'agression caractérisés, et les malheureux téléspectateurs qui ont regardé une certaine émission de télévision la semaine dernière ont entendu dire que en matière d'agression par le phénomène, il y avait peut-être eu un truc dans le temps en Amérique du Sud, mais on ne savait pas très bien.
Alors Julien, on est malheureusement, c'est la fin de cette émission puisque le temps passe trop vite maintenant. On n'aura pas le temps de poser les questions, je suis désolé. On refera une émission prochainement avec Joël et s'il veut bien revenir nous voir. On lui passera les témoignages, bien sûr.
Merci infiniment.
Ce que je veux dire, c'est que si vous vous intéressez à ces questions, vous ne pouvez pas prétendre vous y intéresser si vous n'êtes pas abonné de Lumière dans la nuit. Parce que c'est vraiment un document, c'est prodigieux, ça existe depuis plus de 40 ans. Et moi, je l'ai redécouvert avec bonheur. J'ai acheté d'ailleurs une bonne partie de la collection depuis quelques années parce que c'est un document extraordinaire. Ce sont des archives intelligentes, probablement beaucoup plus intéressantes que le site internet Gepan de ce phénomène extraordinaire qui est l'apparition d'objets volants non identifiés et bien d'autres choses comme celles qu'on vient d'expliquer. Ce que je vous propose, c'est de revenir nous voir la prochaine fois que vous viendrez à Paris.
Avec plaisir.
Hein, et on approfondira ces questions, on y reviendra d'une façon un peu plus longue. Je rappelle également que vous êtes l'auteur de Men in Black qui est paru au Mercure Dauphinois. Alors le Mercure Dauphinois, j'espère qu'on aura l'adresse ici, si on peut le commander. Oui, 4 rue de Paris, 38 000 à Grenoble. 4 rue de Paris, 38 000 à Grenoble. Le livre s'appelle Men in Black de Joël Ménard. C'est l'étrange affaire des hommes en noir et des ovnis. On n'a pas pu parler des hommes en noir, mais on consacrera, si vous voulez, une émission à ce sujet passionnant prochainement.
Et Lumière dans la nuit, c'est...
Lumière dans la nuit, l'adresse, pardon.
Alors, l'adresse de Lumière dans la nuit, on peut écrire LDLN, c'est plus simple. C'est boîte postale 3, 86 800... Saint-Julien-Lard. Lard, ça s'écrit L'ARS.
Merci Joël Ménard, à très bientôt.
À bientôt.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 4 avril 2007 de 18h à 21h.
en différé jeudi 5 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Radio Courtoisie.